et un côté train-train dans les deux huit semaines. Une façon de reprendre les choses où on les avait laissées le vendredi dernier. Une façon d'entendre son réveil sonner comme une alerte à la bombe, comme une alerte à aller travailler à l'obligation. Et puis, remettre le drap à côté de soi sur la personne qui n'y est pas. Ou si elle y est, l'entendre ronfler ou si elle ne ronfle pas, c'est qu'elle n'est pas là. Marcher vers la salle de bain, prendre une douche à la française, peu d'eau, peu de savon. Mais avoir bonne conscience et puis se dire, si on ne se lave pas, c'est bon, c'est contre la pollution, c'est être citoyen écologiste. Et puis, aller vers la cuisine et déjà commencer à avoir des regrets, à se sentir trop plein, trop sale de produits dont on n'a pas vérifié la provenance dans les supermarchés, avec les OMG et on ne sait quoi, et ingurgiter tout ça de n'être qu'un corps. Et puis, commencer à checker son ouverture au monde, ce qu'on croit l'être, ses Instagram, ses Facebook, ses Snapchat. Regardez, y a-t-il des followers? Suis-je moins seul sur la planète, sous le ciel et la lune? Et puis partir dans la rue. La rue, cette époque de recherche de papa providentiel, cette époque d'élection présidentielle, cette époque de guerre perpétuelle. Faut-il prendre les armes ou se laisser porter? Faut-il attendre le métro comme un héros, voir passer une rame, première colère de la journée, rentrer? Des colères d'enfant quand maman n'était pas là. Et papa ne nous parle pas. Alors, aujourd'hui, le papa, c'est nous, on embrasse tout. On s'ouvre, on choisit, on est citoyen, on est grand, on a choisi d'être heureux, on s'est battu pour ça. Et on continuera.
Coûte que coûte, gamin! Oh, gamin! Oh, oh, gamin! Oh, oh, petit! Oh, gamin! Qu'est-ce que... Hein?
Bonne journée, à tout de suite.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Thierry Paré.
Bonjour à tous.
Gym, 12 sur 20.
Oui.
Et pour le reste, c'est très bien. Le journal de 7h02, bonjour à tous.
Elle s'appelle Zeus, c'est une tempête. Hein. Elle va s'abattre sur la France aujourd'hui. Plus d'une vingtaine de départements sont concernés. De la Bretagne jusqu'à l'Auvergne, une dépression se creuse au large de la Bretagne avant de plonger en Méditerranée en fin de journée. Il n'est pas autiste,
ah bon,
dit-il.
On va appeler RL à Brest, voir ce qui se passe. Ok, pardon.
Il n'est pas autiste, dit-il, mais il se maintient fort du rassemblement de ses partisans place du Trocadéro hier, et alors qu'il est de plus en plus isolé hein, dans son camp. François Fillon a confirmé hier soir sur France 2 qu'il était prêt à entamer le dialogue avec sa famille politique, même si pour lui, toute autre candidature improvisée à 50 jours de la présidentielle serait vouée à l'échec.
On va en parler tout de suite après avec Dominique Reynier, dit Colombe et les deux églises, qui est là juste à côté.
Personne ne peut m'empêcher d'être candidat, c'est ce qu'il a déclaré hier soir, hein, François Fillon, sur France 2. Alors plusieurs noms sont régulièrement cités ces dernières semaines pour remplacer François Fillon, éventuellement. En premier lieu, celui d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, arrivé deuxième à la primaire de la droite. Il a prévu de faire une déclaration à la presse ce matin à 10h30. Le premier vice-président de la région Hauts-de-France, Gérald Darmanin, lui, a annoncé hier soir qu'il quittait son poste de secrétaire général adjoint du parti LR.
Pour Il
veut marquer son désaccord avec la volonté de François Fillon de rester candidat à la présidentielle.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Darmanin. Oh,
Darmanin, ça va?
Darmanin.
Boris, il y a Darmanin qui s'en va.
C'est Gérald. Hein,
tu t'en fous?
Rien à foutre.
Bon, refais-moi un café, alors.
À noter aussi que trois barres.
Hey Claude, t'es au courant pour Darmanin?
Non,
il s'en va.
C'est Gérald, on peut l'appeler GG.
Il y a Pouchard qui revient.
Oh, bah,
non mais il part en retraite, Pouchard. C'est pour les socialo-communistes qui vont me faire baisser mon fric. Excusez-moi.
À noter aussi que trois barons régionaux, Valérie Pécresse, Christian Estrosi et Xavier Bertrand, s'apprêtent aussi à demander le retrait du candidat de la droite. Et puis François Fillon qui décroche dans les sondages, il se situerait à 17% selon l'Institut Sophos.
Il s'apprêterait à le faire et puis quelqu'un leur a pris l'idée avant. Vous avez dit qu'il s'apprêtait à le faire, Pécresse et les autres.
Ils ont déjà annoncé en fait qu'ils vont faire une déclaration ce matin.
Ah,
c'est pour ça. Ils ont annoncé qu'ils allaient se retrouver ce matin pour discuter, pour annoncer une sortie par le haut de cette affaire.
Moi j'aimerais bien quelqu'un dit tantôt une sortie par le bas. Vraiment, essayer quelque chose de lamentable.
Une sortie par le bas, c'est quand même sympa.
C'est un truc de liquide.
Et Darmanin.
Darmanin. Il est toujours là, Darmanin.
Non, il est parti.
Quoi? Darmanin.
C'est grave.
Gérald
est parti.
C'est pas vrai. Il est parti où?
Ça fait un trou.
Il est parti chez les gauchos. Je l'ai peiné, là. Allez,
Bon, toujours à propos de cette présidentielle, et on va en finir là-dessus, un train exposition circule en ce moment. Il est parti hier de la gare de Lyon. Il va parcourir la France jusqu'au 13 avril. Il va présenter l'histoire de l'élection présidentielle sous la 5e République. Et il va parcourir 6000 kilomètres. Il va, voilà, il va se poser dans 31 villes étapes. Avec, bah, je sais pas, du coup, comme il a plus de boulot, peut-être c'est possible que Gégé soit sur le coup. Les salariés du Pôle emploi sont appelés à la grève aujourd'hui par leur syndicat, sauf la CFDT. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, les effectifs insuffisants et notamment la numérisation, l'automatisation à outrance. Est-ce le premier pas vers une Europe à plusieurs vitesses? François Hollande réunit un sommet quadripartite ce lundi à Versailles avec la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Objectif officiel, préparer les réformes de l'Union européenne en vue du 60e anniversaire du traité de Rome, tout en tenant compte du Brexit. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 45 000 personnes auraient fui leur logement depuis le début de l'offensive des forces irakiennes pour reprendre la partie ouest de Mossoul aux djihadistes du groupe État islamique. Lors d'un meeting à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que la décision de plusieurs villes allemandes d'annuler des meetings de ses soutiens n'était pas différente des pratiques nazies, carrément. Les relations entre Ankara et Berlin se sont nettement tendues après l'annulation en Allemagne de 3 meetings de soutien. C'était jeudi et vendredi dernier, des meetings de soutien à un référendum turc le 16 avril. Référendum qui va porter sur une réforme constitutionnelle et qui est destinée à renforcer les pouvoirs du président turc.
Vous avez vu qu'on ne vous a interrompu à partir du moment où c'est international. On bouge plus, une heure et des États islamiques, Syrie, Turquie, Ramallah.
Darmanin, président.
C'est possible. Il va peut-être annoncer quelque chose.
Tout est possible.
Tout, et c'est grave.
Et c'est très
pardon, Thierry Paret.
L'enquête sur les disparus d'Orvault qui se poursuit. La famille Troadec est portée disparue depuis le 17 février. La sœur et le beau-frère du père de famille ont été placés en garde à vue. Les enquêteurs semblent s'intéresser notamment à un différend familial autour d'une question d'héritage. Il semblerait, mais ce n'est pas confirmé, je vous le dirai tout à l'heure, que le beau-père du père de famille ait avoué les crimes de toute la famille. Je vous en dirai plus tout à l'heure à 7h30.
Vous qui avez une grosse fortune personnelle, c'est une chose qui ne vous risque pas d'arriver, d'aller faire de mal à personne.
Non, j'ai pas d'enfant.
Je sais que vous avez un studio au sport d'hiver.
Bon, du coup, ce qui m'amène, il était pionnier de la radio et de la télévision, un pionnier qui a révolutionné la mise en image et en son grâce à ses créations iconoclastes. Exactement, déclaration de la ministre de la Culture Audrey Azoulay. Jean-Claude Averty nous a donc quitté ce week-end. Il avait 88 ans.
On en avait parlé il y a un mois avec un reportage.
Ah, bravo.
Ben oui, non mais c'est vrai. On avait parlé avec Mireille Dumas. Et il est mort.
Incroyable. Non, mais il était formidable. Il y a une interview. J'écoutais TSF Jazz ce matin. Il y avait des extraits d'une vieille interview de Jean-Christophe Averty. Absolument génial. On lui dit, est-ce que vous avez des héritiers? Il hésite 3 secondes. Il dit, mes petits-enfants.
Parce que t'écoutes pas le 6-7 le matin.
Si,
d'accord, très bien. Alors, qui
je
pourra arrêter?
Je ne me lève pas à 6h. Je me lève à 5h et vous n'êtes toujours pas là, Thierry Paret. Je vous ai attendu sur le Guadalquivir et vous n'êtes pas venu.
Et puis on va finir sur le foot. Qui pourra arrêter Monaco en Ligue 1? Certainement pas Nantes. Hier soir, Monaco à domicile a battu Nantes 4-0 en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Ah si, quand même, cette info, le Français Kevin Mayer qui est devenu champion d'Europe en salle de l'heptathlon à Belgrade hier en améliorant au passage le record d'Europe, 6479 mois. Ça nous parlera pas beaucoup à nous qui connaissons pas trop l'heptathlon, enfin peut-être ceux qui connaissent savent de quoi on parle.
Merci beaucoup Thierry Paret. Les matins de Gérard Darmanin, quand il faut prendre la parole, quand il faut exister, quand il se dit je vais renoncer, alors que les gens ne savaient pas quand il ne renonçait pas, quand il s'est dit je m'en vais, les gens ne savaient pas quand il était là, quand il est dit je veux rentrer, les gens ne savaient pas qu'il était sorti, quand il dit, quand il parle et que nous on n'a pas envie d'écouter parce qu'on s'en fout, Gérard Darmanin, et on s'en fout de toutes ces prises de parole individuelles de chaque élu, de chaque parti qui veut exister, qui veut instagrammer, qui veut tweeter, qui veut l'être invité, qui veut parler, qui veut des micros. Alors envoyez-leur des micros chez eux, envoyez-leur des petites caméras, dites-leur de se filmer en vacances avec leurs enfants, dites-leur de faire des petites prises de son, de jouer à la maison, dites-leur de nous foutre la paix, tous ces noms propres qui nous salissent les oreilles. Stop à la darmanisation des esprits. Stop, j'en peux plus que chacun va pas m'emmerder pendant des semaines à dire voilà ce que je pense, voilà, réunissez-moi. Ils appellent des attachés de presse et des conseillers, des Anne Méo, des je sais pas quoi, convoque-moi la presse. Alors la bonne femme, elle est emmerdée. Oui, la presse, il y a Darmanin qui veut parler. Cocotte, s'il te plaît, j'ai peut-être autre chose dans ce genre. Alors elle trouve 4 cons, un mec, un machin, un stagiaire de TF1, un mec qui va être viré de BFM, un mec qui dit bon, ok, on vient, mais tu nous payes le déjeuner. Chut, monsieur Darmanin, je ne sais pas où les mettre, la presse. Écoutez, je vais parler. Alors j'ai décidé de me retirer de la. Oh là, incroyable, c'est Darmanin! Un selfie!
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Qu'est-ce que je dois te dire? Mais qu'est-ce que je fais là?
Quel quel plaisir d'être de retour avec vous, au milieu de cette table, avec tous les chroniqueurs de l'émission. Pardon, parce que pendant encore une dizaine de jours, je ferai des allers-retours avec l'Afrique du Sud, où je tourne un film de Carole Rocher et Thomas Njinjol, où je joue une sorte de conseiller de président africain dans les années 70, avec des réseaux focales.
Qui dirige plus, Carole ou Thomas?
Et mon chéri, je crois que c'est vraiment un couple. Non, c'est les deux, je ne sais pas. Mais je suis en direct avec vous tous les matins sur le tournage. Eugénie m'a préparé des micros et tout ça. Et donc parfois, on a l'impression que le son est formidable. Mais parfois, c'est plus raté, donc je suis au téléphone. Donc je vous prie de m'excuser. Mais c'est pas mal, je fais ça pour l'émission, vous pensez bien. Pour enrichir, bien sûr, pour que l'émission étende ses tentacules.
Vous offrez votre corps à la France.
Merci. Edmund Kelly, vous avez des choses ce matin. Qu'est-ce que vous avez apporté?
Ah, je ne parlerai pas sans générique.
Ah, le générique, pardon.
Attention.
Les connoisseurs de l'actualité, plongés dès leur plus jeune âge dans l'actualité qui change chaque jour, ils sont obligés de se renouveler chaque matin. Ils sont là, qu'ont-ils apporté de frais comme du pain?
On me montre du doigt, donc j'imagine que je dois prendre la parole.
Je ne sais pas, Marie-Michel, c'était Atman qui a...
Non, mais on est rodame.
C'est que vous voulez faire le dernier acte. Vous êtes vraiment un cabot épouvantable.
Marie, bonjour, chère Marie. Parler les dames,
en parlant d'honneur aux dames, il y a Le Parisien qui fait des pages échos un peu spécialement femmes. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils mettent Laurence Parisot en une, mais en tout cas, ils parlent des femmes et ils parlent des produits spéciaux pour femmes. Vous savez, comme quand on crée des bics utilisables que pour les femmes ou des rasoirs que pour les femmes. Et là, il y a un assez merveilleux tire-bouchon Chic Lady qui coûte quand même 40 balles. Tout en courbe sensuelle, le Chic Lady extrait en beauté et en douceur, comme les femmes, j'imagine, les bouchons de vos bouteilles.
Mais alors, il est pour les femmes ou il est censé ressembler au corps d'une femme?
Mais écoute, c'est vrai qu'on peut se poser la question. J'ai l'impression qu'il est un peu pour les femmes, mais effectivement...
Oui, c'est un peu contradictoire. Pourquoi est-ce qu'une femme voudrait tenir spécialement un corps qui évoque la femme? Atman vous dit, il y a de très belles femmes en ce moment.
Oui, il y a de très belles
qu'est-ce
femmes.
Qu'est-ce que vous avez ce matin?
Moi, j'ai un Lillois qui vend un cerf.
Vous êtes comme Truffaut, vous pensez que c'est au printemps que les femmes
les femmes sortent et leurs jambes deviennent comme des compas qui traversent le monde et qui rayent comme dans L'Homme qui aimait les femmes. Voilà.
Qui lui donne son équilibre. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu?
Alors, moi, j'ai vu un Lillois qui vend un cercueil en chaîne massive très particulier.
C'était dans quoi déjà? Dites pourquoi c'est
dans
chaud
dans la Voix du Nord.
Alors, ce matin, vous étiez en train de dire la Voix du Nord dans votre Lille Paris qui vous permet de venir travailler avec nous tout en vivant à Roubaix.
Exactement. Et là... et donc, dans la Voix du Nord, j'ai vu, dans les trucs un peu insolites, un Lillois qui vendait un cercueil en chaîne massif, mais qui avait la particularité d'avoir les jambes écartées. C'est-à-dire, c'était un cercueil en forme de poisson. Alors lui, il dit, oui, ça ne rentrera pas ni dans le four, ni dans le caveau, ni dans le trou, ce cercueil, mais c'est une forme de rébellion sur la mort, c'est-à-dire de dire, ma mort aussi m'appartient, c'est une forme d'art, donc je continue à faire d'autres cercueils, en forme de cochon, en forme de, vous voyez, quand on dort, vous savez, je pense que cette information n'a aucune...
Alors, si tout intéressant, vous êtes parti d'une info un peu insolite, ce qui était une tradition dans le canal des années 80, un peu décalé, un peu insolite, un peu... Voilà, on déconne, mais ça existe vraiment. Le côté incroyable mais vrai, qui était frais, qui était agréable le matin. Et puis vous êtes arrivé sur quelque chose qui était plus beau, qui est plus fort, c'est Ma mort m'appartient. Et là, vous auriez dû terminer là-dessus, on aurait été un peu dans la merde.
Non, ben oui, tout à fait. Mais là, non, je préfère une chute où tout d'un coup, c'est plus...
Dominique Reynier, ça vous a intéressé? Est-ce que c'est le côté aussi un peu démago d'Atmet qui dit c'est dans la Voix du Nord, attention, arrêtons de séparer Paris et les régions, ils ont raison parce que c'est...
Non, ça m'a... J'écoute attentivement, oui, je pensais effectivement à la réflexion sur Maman m'appartient.
Oui, c'est-à-dire que le type ne veut pas mourir.
Vous savez qu'il y a des pays où on se fait enterrer dans tout ce qui symbolise la richesse qu'on a eue de son vivant, dans un cercueil en bois qui représente une voiture très luxueuse ou qui représente des meubles de chez soi.
De moins en moins, la mort nous appartient en fait, hein, parce qu'il y a des contraintes environnementales de plus en plus fortes qui pèsent sur la manière dont on veut disparaître après sa mort. Et en fait, c'est une belle question, parce que de moins en moins souvent...
Alors quand même, si, parce qu'il y a aussi tout le débat sur l'euthanasie, ça c'est encore...
Oui, mais ensuite l'incinération...
C'est vrai, Dominique, qu'en fait, qu'on peut pas, ça n'existe pas les concessions perpétuelles dans les cimetières, qu'au bout d'un moment, on vous dégage?
Ah oui, c'est certain.
C'est une fausse perpétuité.
Non, on réduit, on ne dégage pas, on réduit.
On dégage.
Ah bon?
Oui.
Tu as assez fait ton temps, tu dégages.
L'éternité, mais pas trop longue. Oui, c'est ça.
L'éternité à taille humaine.
Sous ça, joli.
L'éternité dure 20 ans. Tito, je me sens très chaud du micro.
Dans le même genre, il y a Balibalo dans son cercueil, nanana, comme un chevreuil.
Bon, bah, tu sors. Il bandait. Très bien, je vous remercie beaucoup. Thierry,
ouais, non, moi, j'ai vu aussi un gars qui s'est fait enterrer dans une brique de Lego il n'y a pas longtemps en Angleterre.
Ah, ça, c'est moi, je croyais qu'on était sur autre chose.
Aussi là-dessus, il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, dans les maisons de retraite, la plupart proposent un atelier Je construis mon cercueil aussi. Ça existe.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. Et on voit des photos et les gens peignent des cercueils en Nouvelle-Zélande.
Évidemment, comme c'est trop loin pour aller vérifier. Je vais aller y tourner.
Chez les LR, on construit son cercueil.
Calmez-vous. Ne stigmatisez pas telle ou telle partie. Soyez gentils.
J'ai envie de dormir dans mon Porsche Cayenne.
Marie, autre chose?
Ah oui.
Parce que votre coup du tire-bouchon féminin, quand même, tu t'es pas foulée ce matin.
On me désigne les femmes à l'honneur. C'est les femmes à l'honneur, bref.
C'est pas en tant que femme, c'est vous. Moi, je ne sais pas si vous êtes femme ou homme. Je ne suis pas sexiste, n'en sais rien, moi.
Il y a le droit des femmes, lui.
Je ne sais pas si vous êtes noire, juif, arabe, femme, homme, enfant, vieux. Je ne sais pas. Vous êtes pur esprit pour moi.
Je suis juif, arabe et vieux. À Bethléem, il y a, en parlant de juif, arabe et de vieilles personnes, il est jeune, lui. Yacoub Shaïn, c'est un chrétien syriaque qui est devenu l'idole d'une jeunesse palestinienne. En gros, il a gagné le Arab Idol là-bas, en Israël. Là, ouais. Voilà, le sort de Voice.
La Palestine a un incroyable talent, ça s'appelle.
Alors, non, vous savez ça s'appelle Arab Idol, c'est écrit dans l'article.
L'article a raison, contrairement. Faut-il croire dans la presse ou dans le pays réel représenté par... Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Bethléem aussi, que l'artiste Banksy a ouvert un hôtel?
Oui, en face du mur.
Oui, il a ouvert un hôtel de 9 chambres. Alors, la publicité pour cet hôtel, c'est l'hôtel qui a la pire vue du monde, ouais. Puisqu'il donne sur une sorte de checkpoint, sur des barbelés.
Il donne sur le mur.
Mais un endroit du mur qui est vraiment dur, je crois, avec spécialement de barbelés.
Et voilà. Et donc, c'est...
J'aime bien, il y a certains sujets, certaines régions, quand on en parle, on retourne vraiment 9 fois notre langue avant de parler, parce que sinon ça va tweeter.
À Bethléem, il s'est passé un truc il y a 2000 ans, il paraît qu'il y a un enfant qui est venu.
Alors, c'est... Oui.
Oui.
Alors entre le bœuf et l'âne gris, voilà. Bien sûr.
Il paraît que c'était l'enfant de Jésus.
Jésus, enfant de l'amour. Très bien.
Mais attendez, je voulais juste terminer sur ce Yacoub Shaïn, qui est donc devenu une sorte d'idole pour les jeunes palestiniens et qui représente une sorte d'image nouvelle qui transporterait, ou en tout cas qui donnerait un message de paix. Dans l'article, on lit, on n'a pas beaucoup de gens comme ça, de Palestiniens à l'international, qui donnent cette image-là. Donc il est en train, enfin voilà, il a une certaine prestance et on en parle. Yacoub Shaïn.
Très bien.
Chrétien syriaque.
Mais c'était quoi son talent,
oui,
en fait,
Thierry? Il chante.
C'est pas...
Je peux avoir une alerte info parce qu'il se passe un truc très important. Est-ce que c'est possible d'avoir une alerte info ou pas? Alors, merci beaucoup. C'est à l'instant, je la prends à l'instant, ça vient de tomber. C'est Gérald Darmanin.
Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé?
Qui renonce à ses fonctions au sein des Républicains.
Attends,
alors je suis désolé, je voulais pas le lancer aussi brutalement, je voulais attendre le journal de la nuit.
Attendez,
je suis un peu embêté.
Avant de savoir à quoi il renonce, quelles étaient ses fonctions?
Oui, alors je vais d'abord aller lire la dépêche complète.
Vite, alerte info. Pierre Chombier quitte la Sofrogetech. Oh non, c'est trop bon. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
C'est où déjà plus près de toi? Tu savais, non?
Pour acheter toutes ces conneries, il nous faudra beaucoup d'argent. Heureusement, on a un correspondant tiercé. Pat Good Vibes. Il lit le tiercé comme d'autres lisent l'annuaire. Il connaît tout sur le monde équestre. Il sait comment gagner. Lui-même n'a jamais gagné un rond. Mais ce matin, Pat, notre correspondant à Angers. Pat, tu es à Angers?
Je suis à Angers sous la pluie. Il pleut ce matin à Angers.
Non, et tu sais qu'il ne faut jamais dire dans une ville qui pleut, après on se fait engueuler par la ville. Alors,
mais c'est vraiment... ça arrive jamais. Hein,
ah, voilà, c'est comme en Bretagne, la pays du soleil, l'autre pays du soleil, Brest, qu'on appellera tout à l'heure KRLP.
Oui, absolument.
Pat, dis-nous là ton tiercé du jour.
Alors, écoute, Edouard, c'est difficile aujourd'hui parce que tu sais, c'est la reprise de l'obstacle. Ça se passe à Compiègne aujourd'hui dans la deuxième course.
Mais moi, je m'en fous que ce soit dur, je veux gagner.
Alors, 7 et 12, on fait 7 et 12 de base, d'accord?
C'est quelle course?
Alors, deuxième course à Compiègne.
Alors, Réunion 1. Alors, mesdames, messieurs qui suivez cette émission, si vous existez encore, dans la Réunion 1 à Compiègne, donc le 7 et le 12, comment s'appelle le prix?
Alors, le prix s'appelle le prix Spumé.
Pardon?
Le nom de Spumé, S-P-U-M-A-I-E. Et c'est le nom d'un ancien cheval qui a été un crack il n'y a pas longtemps.
F-U-M-A-I-E, le prix Fumé. Mais on joue le 7 et le 12, quels sont leurs noms?
Leurs noms, alors le 7 c'est Beauté Premier, c'est un très beau nom. Hein,
redis-moi, on t'entend très mal, à mon avis c'est un téléphone d'avant l'invention du téléphone. Redis-moi.
Absolument. Beauté Promise, comme une beauté promise.
Beauté Promise.
C'est beau ça.
Le 7 et...
Le 12 c'est Is Jennifer, c'est Jennifer.
Ah c'est moins bien ça le nom.
C'est Jennifer?
Oui, absolument.
Beauté Promise et Jennifer, le 7 et le 12, on joue combien?
On joue 5 euros, Edouard, en couplé gagnant placé, voilà.
Couplé gagnant placé, et on gagne combien?
On peut gagner, je ne sais pas, mais on peut gagner.
Bon, ça dépend, tu n'as pas encore la cote. C'est cet après-midi, à quelle heure ça se court?
13h47.
Très bien. Alors,
sur LCI.
Je vous propose de faire confiance à Pat, de jouer dans le prix fumé Beauté Promise et Jennifer le 7 et 12. Et on t'appelle demain matin ou pour te récompenser ou pour t'envoyer une équipe.
Allez, petit, c'est fait.
Bonne journée à toi, Pat, à Angers. Je t'ai organisé un rendez-vous à l'hosto.
Très bien, salut.
Retour en studio. Bisous.
On passe au tiercé politique alors.
Oui, mettez-moi un petit jingle pour recevoir Dominique Reynier.
Alors, bien sûr.
Dominique Reynier, professeur à sciences politiques, éditorialiste, journaliste, écrivain. Vous avez signé un très bel article sur le contenu du discours électoral dans Le Monde la semaine dernière, sur lequel j'ai eu la chance de tomber. Vous dites que c'est la première fois qu'il y a si peu de débats à un mois et demi, de débats sur le contenu des programmes à un mois et demi de l'élection. Est-ce que c'est une nouvelle ère politique qui commence? Est-ce qu'on ne va plus parler que des affaires, que du physique, que de qui n'a pas de casserole? Ou est-ce que c'est vraiment un accident politique, le fait qu'on parle si peu de programmes?
En tout cas, il y a eu plusieurs scrutins avant le nôtre ici, le Brexit ou aux États-Unis. Il y a eu plusieurs scrutins déjà, et maintenant en France, où, pour des raisons diverses, on n'évoque pas, presque pas, les programmes des prétendants, donc les décisions qui réellement vont avoir lieu une fois que l'élection sera passée.
Alors est-ce que c'est parce qu'on parle d'autre chose, c'est-à-dire qu'on noie le poisson, ou est-ce qu'on a l'impression que le programme et ce qui est vraiment appliqué sont deux choses trop différentes maintenant ?
Il y a peut-être cet aspect-là. Il y a aussi le fait, je crois, qu'il y a d'un côté des forces politiques de droite et de gauche qui... grosso modo, ne sont en mesure d'appliquer qu'un programme très proche, en fait, dans la réalité. Et puis de l'autre côté, il y a des programmes de rupture. Et donc, ce clivage-là, il va surtout s'exprimer au second tour, en fait. Mais au premier tour, il y a une très grande difficulté, en réalité, à distinguer entre les programmes.
Ah bon, mais alors ça, moi, je ne m'y attendais pas du tout à ce que vous me disiez ça. C'est qu'en fait, cette réalité qu'aujourd'hui, le choix politique va du centre droit au centre gauche, c'est la vérité, en fait.
Ben, c'est très frappant. François Fillon, avant d'être en difficulté, pour les raisons que l'on sait, a été en difficulté sur un autre sujet, qui était ses idées sur la sécurité sociale. Là, il y avait quelque chose de programmatique qui était différent des autres. Je ne dis pas que c'était bien ou mal, peu importe, mais c'était différent des autres. Et il a été tellement mal reçu avec cette idée singulière sur la sécurité sociale qu'il a dû, au fond, battre en retraite, affaler sa voix dure à ce sujet et normaliser son discours sur la réforme de la santé. Et aujourd'hui, si on prend le cas de la santé, par exemple, on ne peut faire aucune différence entre la plupart des candidats sur la question de la santé. L'idée de réformer en profondeur le système de la santé, que ce soit nécessaire ou pas, il peut y avoir des candidats qui le jugent nécessaire, c'était un peu l'idée de François Fillon, cette idée a disparu.
Là vous parlez des candidats réformistes, vous parlez pas de Mélenchon, de Marine Le Pen.
Oui, après on a des candidats de rupture en effet, qui sont eux dans un autre type de discours, avec des propositions radicales, dans lesquelles d'ailleurs les électeurs peuvent trouver un intérêt ou pas, c'est pas les électeurs qui votent pour Mélenchon ou qui votent pour Marine Le Pen, on peut souligner ce point, sont très nombreux à ne pas faire confiance non plus à ces candidats, non plus à ces partis. Ce ne sont pas des partis qui suscitent un enchantement particulier. Il y a une bonne partie du vote pour, par exemple, Marine Le Pen, qui est quand même celle qui est en tête aujourd'hui, qui est un vote de rejet des autres partis et non pas un vote d'adhésion à ce parti-là. Il y a une partie d'adhésion, on le sait, mais une large partie... sans aucune illusion, qui consiste à utiliser ce vote, en quelque sorte, pour hacker la politique, pour pirater, en fait, le système qui, aujourd'hui, leur déplaît dans son fonctionnement.
Le vote provocation. Alors, vous avez écouté hier soir François Fillon, Dominique Reynier, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de... D'abord, la manifestation, c'est un succès ou pas, sa réunion au Trocadéro, franchement ?
C'est plutôt un succès. Alors après, les chiffres sont entre 200 000, 40 000, c'est à chaque fois pareil. Mais c'est plutôt un succès, parce que la place n'était pas déserte. C'est plutôt un succès parce que ça n'était pas la manifestation qui avait été à un moment donné annoncée. Mais je crois qu'il y a eu une confusion, et ça aussi c'est l'époque, il y a eu une confusion entre ce qu'avait annoncé l'équipe de Fillon et puis ce qu'avait annoncé Valeurs Actuelles, qui voulait s'emparer un peu de l'événement et qui avait dit « on va manifester contre les juges ». Ça c'était la une de Valeurs Actuelles, mais c'était pas le mot d'ordre de la manifestation organisée par l'équipe de Fillon. Donc il n'y a pas eu cette espèce de cri collectif contre les magistrats ou contre la presse.
Donc on ne sait plus très bien ce que c'était, parce que c'était organisé un peu par les anciens du mariage pour tous. Il y a un mélange de trucs. Et ensuite, on a vu des photos surgir, qui étaient des photos en fait de l'ancien rassemblement de Sarkozy. Au Trocadéro. Alors les internautes, comme on dit, se sont beaucoup moqués. On a vu plein de photos en disant « gros succès, la manifestation de Fillon ». On voyait des images du public devant la Maison Blanche pour Obama. On a vu des gens sur des plages aussi à Rio disant « gros succès ». Enfin bon, plutôt un succès en tout cas, pas d'humiliation. Voilà. Est-ce que c'est une sortie vers le haut ou c'est un redémarrage pour vous ?
En tout cas, c'était pas un échec, parce que ça c'était attendu. Hein. L'échec aurait été souligné. Donc là, c'était pas un échec. Après, on jugera dans l'intensité de la réussite. Donc il n'a pas échoué là-dessus. Et je crois que c'était important pour lui, François Fillon. Après, ce qui est frappant, et chacun en est le témoin, encore ce matin, vous annonciez le départ de Gérald Darmanin.
Quoi Oui, ah, vous me l'apprenez.
Si on a fait ça, on a vu ça.
J'ai un peu troublé par ça.
Schoon Gérard Darmanin, qui c'est là
je n'aurais pas dû vous relancer là-dessus. Il y a un débat passionné, mais simplement le fait qu'on a vu tous ces départs qui ont eu lieu au cours de la semaine. Je ne sais pas comment on peut imaginer leur retour. Et s'il n'y a pas, c'est un peu curieux de les imaginer revenir, et s'il n'y a pas leur retour, non pas que ce soit des pièces indispensables, mais ça signifierait que le candidat de la droite et du centre s'engagerait dans une campagne avec la moitié des troupes ou un quart des troupes. Enfin, c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui tout à fait déraisonnable, sauf si on se résigne à la défaite dès le premier tour.
Dominique Régnier, restez avec nous. Il y a le journal Thierry Paré. C'est une émission bourgeoise. C'est une émission tenue. Il y a entrée, plat, dessert. 7h34, on est en retard. C'est le rappel des titres. Et on reste pour parler de la prestation de Fillon hier soir au journal. Je suis content. Je parle comme des vrais journalistes de télé. On reste là, on fait ça. Et après, on reparle de là. Je m'en mêle
vous
à peine
l'air très
sur les
content
mots.
De vous. J'adore ça.
Non, ça si, m'angoisse si. De faire ça comme métier, de faire le mec. Qui
mais,
très proprement
mais il faut
fait
le faire,
ça.
C'est bien.
Voilà, mais non, mais c'est bien. C'est bien parce qu'il y a une grosse demande. J'ai les chiffres. Ah non, c'est autre chose, ça, c'est pour les courses.
Une tempête baptisée Zeus va s'abattre sur la France aujourd'hui. Plus d'une vingtaine de départements sont concernés, de la Bretagne à l'Auvergne. Fort du rassemblement de ses partisans place du Trocadéro hier, et alors qu'il est de plus en plus isolé dans son camp, François Fillon a donc confirmé aux 20h de France 2 qu'il était prêt à entamer le dialogue avec sa famille politique, même si pour lui, toute autre candidature improvisée à 50 jours de la présidentielle serait vouée à l'échec.
Plusieurs C'était bien noms... tout à coup la formule famille à ce moment-là. J'imagine François Fillon entamer le dialogue avec sa famille. J'imaginais qu'il allait rappeler sa femme. Continuez, pardon.
Plusieurs noms sont régulièrement cités ces dernières semaines pour éventuellement remplacer François Fillon. En premier lieu, celui d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, arrivé deuxième à la primaire de la droite. Il a prévu de faire une déclaration à la presse ce matin à 10h30. Une défection de plus dans le camp Fillon. Le premier vice-président de la région Hauts-de-France, Gérald Darmanin, qui a annoncé donc hier soir qu'il quittait son poste de secrétaire général adjoint. Et puis trois barons régionaux, Valérie Pécresse, Christian Estrosi et Xavier Bertrand, s'apprêtent eux aussi à demander le retrait du candidat de la droite qui décroche dans les sondages. Si l'on en croit la Sofres, il se situerait à 17%. Les salariés de Pôle emploi sont appelés à la grève aujourd'hui par leur syndicat, sauf la CFDT. C'est le premier syndicat du secteur quand même. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, les effectifs insuffisants et notamment la numérisation, l'automatisation à outrance. Est-ce le premier pas vers une Europe à plusieurs vitesses ? François Hollande réunit un sommet quadripartite ce lundi à Versailles avec la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Objectif officiel, préparer les réformes de l'Union européenne en vue du 60e anniversaire du traité de Rome, tout en tenant compte du Brexit. Comme partout dans le monde, peut-être un peu plus qu'ailleurs, d'ailleurs, l'Inde écrit son histoire en construisant des statues. On ne compte plus, celles de Gandhi, de Nehru, ou Ambedkar, leader des intouchables, rédacteur de la Constitution. Et bien une liste qu'il va falloir compléter avec un nouveau nom, une nouvelle personnalité indienne, qui va avoir droit, elle aussi, à son monument. Il s'agit du chef guerrier hindou, Shivaji. Et alors, sa statue va faire le double de celle de la liberté aux États-Unis, à New York, en l'occurrence, et ce sera la plus haute statue du monde. L'enquête sur les disparus d'Orvault qui se poursuit. La famille Troadec est portée disparue depuis le 17 février. La sœur et le beau-frère du père de famille ont été placés en garde à vue ce week-end. Les enquêteurs semblent s'intéresser notamment à un différend familial autour d'une question d'héritage. Le beau-frère du père de famille aurait avoué les crimes, mais ce n'est pas encore confirmé pour l'instant. Il était un pionnier de la radio et de la télévision, pionnier qui a révolutionné la mise en image et en son grâce à ses créations iconoclastes, déclaration de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Jean-Claude Averty nous a quittés. Il avait 88 ans. Qui pour arrêter Monaco en Ligue 1 ? Certainement pas Nantes. Hier soir, Monaco à domicile a battu Nantes 4-0 en clôture de la 28e journée. Et puis le français Kevin Mayer est devenu champion d'Europe en salle de l'heptathlon hier à Belgrade, en améliorant au passage le record d'Europe, 6479 points.
Merci Thierry Paré. Juste avant de retrouver Dominique Régnier, la météo flamenco de Tito. Lola.
Alors aujourd'hui, bonjour à tous. Il va faire soleil sur la côte atlantique, sur la côte méditerranéenne et sur la côte belgico-germanique. Ailleurs, dans le centre de la France, eh bien, il va pleuvoir. Alors accrochez-vous, voici les dates, voici les heures et voici les températures. À Agen de 6 à 14, à Beauvais de 4 à 8, à Corté de 5 à 4, à Limoges de 4 à 11, à Marseille de 7 à 14, Saint-Étienne de 2 à 11, Nantes de 5 à 11, Lisbonne de 10 à 18. Lolaï, 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 lolaï.
Pardon, excusez-moi. Merci, merci Tito. Dominique, vous avez été sensible à cette météo.
Magnifique. Hein, ouais, certaines... Très sensible à ça, à ce côté hispanique.
Quelle température vous ont... Vous avez dit Clermont-Ferrand 3 à 11. Non, vous ne l'avez pas dit. Non. Dominique Reynier, on était sur hier soir, on était sur la télévision, on était sur sur François Fillon. Est-ce que vous l'avez... Comment vous... Qu'est-ce qu'il a dit? Comment vous l'avez trouvé?
Ben, c'était la fin de l'exercice qu'il avait engagé, la manifestation. France Télévisions le soir aux 20h, l'idée de, j'imagine, de clore le débat sur son retrait. Il ne pouvait pas dire autre chose que « je reste et je continue » après la manifestation qui n'a pas été un échec, ce qui était possible. Donc c'est une façon d'éteindre ce débat sur son départ. Il faut dire aux auditeurs que ça peut paraître surprenant, mais... enfin surprenant en tout cas, je ne sais pas, mais il ne peut pas être débarqué, c'est pas possible. S'il décide de rester, il reste.
Et s'il est mis en examen, ça ne change rien.
Ça ne change rien. Rien ne l'oblige légalement, techniquement, à partir. Il a non seulement, et c'est dans les statuts des Républicains, il a gagné la primaire. En gagnant la primaire, il a les clés du parti. En ayant les clés du parti, il a le budget.
Ah oui.
Il a les comptes de campagne en quelque sorte. Il n'y a que lui qui peut accepter de partir, de donner l'argent à un suivant, etc. Donc c'est une affaire difficile à démêler.
Donc il ne peut pas perdre l'investiture.
Hein, il ne peut pas, c'est impossible.
Atmen.
Moi j'ai trouvé hier soir qu'il a eu une formule un peu cavalière quand il a dit « je ne suis pas autiste ». Ça a été repris tout, je crois que la formule était un peu brute, comme ça il aurait pu dire je ne suis pas sourd, mais j'ai trouvé un autiste, quelqu'un de très intelligent, qui est un peu enfermé dans son monde, mais j'ai trouvé un peu méchant, moi je l'ai trouvé
Ça a été repris. Ça. Moi j'ai remarqué, comme vous Atmen, à plusieurs reprises il a dit ça, à trois reprises au moins. Ça m'a frappé aussi, et j'ai remarqué qu'il y a quelques politiques qui, comme cela, utilisent des pathologies, des maladies, des souffrances pour qualifier une situation. On a même souvent entendu la fraude et le cancer de la société, ce genre de choses, etc. C'est vraiment très, très, très malvenu, c'est très désagréable à entendre. Et ça lui a été, effectivement, depuis hier, beaucoup reproché sur les réseaux sociaux.
C'est normal, je trouve. Parce que c'était... Ouais,
merci Dominique Reynier, merci Atmen. Est-ce qu'on est avec Jacques Souvent dehors? Eh bien, dis-le-moi, Eugénie, je ne peux pas.
Oui, alors c'est plus compliqué.
T'as de la pub que tu veux nous fourguer.
Voilà.
Alors, et on retrouve Jacques Souvent juste après. Jacques? Jack, on te retrouve juste après, t'as un client dans la rue?
Ah ben, c'est génial, il y a un camion qui bloque la circulation pour monter un échafaudage, il y en a qui sont pas contents derrière.
Alors, bloque tout et je te prends après la pub. T'es dans Paris, t'es où?
Je suis en haut de la rue Le Pic.
Ok, arrêtez de me tutoyer, à tout de suite. Allô, on est donc... avec Jacques Souvent, notre correspondant de l'impossible, qui part tous les matins dans la rue, dans des villes différentes, à la rencontre de l'inconnu, de l'inattendu.
Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, là, vous êtes hyper pressé de passer?
Bah oui. Non? Vous voyez pas?
Si, je vois.
Voilà.
Il est 7h43.
Oui.
Vous devez être à quelle heure?
Je vais chercher un autre enfant, là, dans cette rue-là, et après, je dois y aller dans le 15e.
Et là, je crois qu'il faut faire carrément demi-tour.
Hein. Bah, je sais pas comment je vais faire au bout de la rue, là.
Comment?
C'est un camion de déménagement.
Je dois y aller au bout de la rue, là.
Ah, vous allez juste au bout de la rue?
Ouais.
Et déménager le camion de déménagement, Jack?
Ah oui, en plus, mais faites demi-tour. Oh là, ça y est, ça commence à être le bazar, là. Le responsable... Non, ouais. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites demi-tour direct, vous?
Comment?
Vous faites demi-tour direct?
Non, je fais pas demi-tour, je fais marche arrière.
Ah, c'est une marche arrière.
Oui,
sur là-bas, ça va cogner. Ça commence à être...
Il n'a pas son permis, Jack.
Oui, à mon avis, faites demi-tour, madame. C'est bloqué, monsieur?
Et ça klaxonne pas, je comprends pas cette...
Ouais, mais la dame, elle fait demi-tour ou pas?
Jack, débrouillez la situation, mon vieux. Allez voir les gens du déménagement. C'est pas possible, ça ne sert à rien.
Demi-tour, madame.
Infernale. Hein? La rue Le Pic est infernale dans Paris.
C'est celle de Amélie Poulain.
Ça y est, voilà, celle qui monte, elle est toujours bouchée.
Je fais la marche arrière.
Ça va sinon, petite synthèse.
Voilà, marche arrière. Alors, là, il y a la voiture AM555BZ qui est là.
Bon, mais Jack, allez au camion déménagement, allez dire au mec de faire un tour complet et de revenir pour eux.
C'est l'échafaudage. Bonjour.
Oui.
C'est bloqué, là.
Bon, qu'est-ce qu'on va faire ?
Comment ?
Comment on va faire ?
Je pense qu'il faut changer de chemin.
On a vu. Non, je ne change pas. Il ne faut pas passer. Comment on va faire ?
Il faut. Je sais pas.
Il faut marcher à pied, c'est tout.
Vous laissez la voiture là ?
Non, non. Faut trouver un place, c'est tout.
Passez-moi ce monsieur, Jack.
C'est le bazar. Hein. Tenez, mettez le casque, monsieur. Parce que j'ai un copain qui veut vous parler.
Allez-y. Allô, il faut parler à ce monsieur qui vient d'avoir une philosophie de vie. Bonjour, monsieur. Vous êtes en voiture vous-même ?
Oui, oui.
Et là, vous avez pris votre voiture ce matin ?
Oui.
Vous allez la laisser au milieu de la route et continuer à pied, j'ai compris ?
Bah non, ça va pas.
Non. Vous allez la confier à quelqu'un qui a une bonne tête, comme on dit ?
Non, non, non. Mais... La voiture, c'est pas moi, déjà.
Ben justement, non, c'est quoi ? C'est une voiture de fonction ?
Oui, oui, c'est ça, oui.
Vous êtes dans quoi ?
Bah, je suis dans le quad, je suis dans la voiture, c'est tout.
Oui, c'est ça. Donc vous allez faire quoi ? Vous avez l'air d'avoir une bonne... Vous avez beaucoup de patience, vous avez une bonne philosophie de vie. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Moi, je suis debout déjà à 4h30 du matin.
Bon, alors là, vous allez attendre que ça dégage, la rue Le Pic, ou vous allez...
Moi, non, je marche à pied pour entrer des poubelles, c'est tout.
Alors là, ça klaxonne et il y a un type qui vient de sortir sa voiture et qui va vers un camion.
Bon, Jack, essayez de m'organiser une petite baston et je vous rappelle dans un quart d'heure. Hein.
Oui, oui.
Allez, oula, une belle baston de rue. À tout de suite. À tout de suite.
C'est
formidable, ce type-là. À tout de suite, avec un poème. Excusez-moi, oui. Je me réhabitue à la radio, je dis des phrases un peu cons. À tout de suite. À tout de suite. Mais là, le poème que tu vas dire, Sacha, tu m'as montré le papier, à la fin, il est signé Sacha Bénard Chesson, c'est ton nom ?
Oui.
Mais pourquoi c'est un poème de toi ?
Non, en fait, à l'école, on avait fait un exercice.
Oui, parle plus près là, ouais.
En fait, à l'école, on avait fait un exercice, et en fait, c'était le poème de Jean-Paul Schneider, et on devait inventer les phrases.
D'accord.
Et c'est pour ça que moi, j'ai fait ça.
Donc tu l'as signé ?
Oui.
Et donc, après, tu l'as déposé. Tu sais, les gens qui sont auteurs, ils ont droit après de déposer le texte à la Société des auteurs. Et si quelqu'un d'autre dit le texte, il doit te verser des sous. Parce que c'est ton texte à toi. C'est pas mal, ça. Non. C'était en quelle classe ?
CE2.
Bon, bah, t'as droit à ton petit jingle.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Mais à part faire des poèmes, qu'est-ce que t'aimes bien faire, toi ?
Des Lego.
C'est vrai ? Mais des châteaux, des maisons, des personnages ?
Oui. Surtout des vaisseaux.
Des vaisseaux de l'espace ou de la mer ?
Les deux.
Et après, tu fais des histoires ?
Oui.
Par exemple ?
Il y a deux grands ennemis qui se battent.
Comment ils s'appellent ?
Il y en a un qui s'appelle Cryptor et l'autre qui s'appelle Jay.
Donc il y a Cryptor. Donc j'imagine que le méchant, c'est Cryptor ?
Oui.
Ouais, il a un méchant. Cryptor, tu vois, c'est des noms qui font un peu peur, non ? Si quelqu'un dans ta classe s'appelait Cryptor, c'est pas... Il y a des Hector dans ta classe ou pas ? Ou des Victor ?
Non, dans l'autre classe, il y a un Hector.
Oui. Mais qui est sympa, peut-être, lui.
Oui.
C'est pas Cryptor, oui. Et Jay, c'est un garçon ou une fille, Jay ?
Un garçon.
Et qui, lui, sympa ?
Oui.
Américain ? Jay ?
Non, c'est... japonais.
Mais il est pas rappeur, c'est pas DJ, c'est pas rappeur. Donc il y a Jay, le japonais, qui est sympa, et Cryptor, il est de quel pays ?
Cryptor, en fait, c'est un robot.
Ah oui. Donc les robots sont méchants et les japonais sont sympas. Bon, ça aussi, c'est ce qu'on défend ici. Bon, alors pour le moment, ça va. Et donc, c'est toujours le même qui gagne ou parfois c'est qui gagne ?
Non, parfois c'est le méchant, parfois c'est le gentil.
C'est toi qui décides quand même. Et t'aimes bien faire gagner le méchant ? Eh oui, de temps en temps. Alors très bien. Alors on écoute ton poème qui s'appelle « Tu dis », qui est une adaptation que tu as faite d'après Jean-Paul Schneider. Très bien, on t'écoute alors.
« Tu dis, livre est déjà un enfant et en train de te lire. » Tu dis, fleur est déjà une abeille en train de te butiner. Tu dis, chien est déjà un enfant court avec toi dans la prairie. Tu dis, école est déjà un enfant fait des mathématiques. Tu dis, copain est déjà, tu joues à cache-cache comme le soleil et la lune.
Ah oui. Super.
Voilà. Si c'est composé, parfait. C'est Tito, magnifique.
Ça vous a plu, Tito? Je vous ai senti très sensible.
Écoute, c'était super. Hein. Bravo.
Faut que tu cours à la SACD immédiatement.
Atmen, vous avez l'interprétation. Alors, Atmen, sur l'interprétation. Vous
avez... Moi, j'ai bien aimé ce qu'on appelle les départs, les renforts. Ça, tu dis.
Vous voyez, l'attaque.
Tu dis. Voilà, voilà. J'accuse. Oui. C'était comme. Voilà, c'était magnifique. Oui, tu dis.
Et sur le fond, Tito, c'est cette évocation de tout de suite, les choses apparaissent dès qu'on les évoque, ça vous...
Oui, oui, non, moi j'aime beaucoup, et puis sa petite voix, comme ça. Puis
qu'est-ce que
lui,
tu penses, toi, de ce que tu as fait?
Moi, j'aime bien.
Bon, bah, alors, écoute, alors tout le monde est content. Benoît Cohen, qui allait venir tout à l'heure parler de votre Libye locale, ça vous a plu aussi?
Ben oui. Elle est formidable.
Et ta sœur, il y a ta sœur qui est là, ça t'a plu, Romy, aussi, ou pas? Il était comment, ton frère?
C'était bien.
Bon, bah, alors, si tout le monde est d'accord, à tout de suite.
Vite, Cryptor.
Plus près de toi.
Nova.
Plus près de toi.
Quelle physique. Il doit faire de la radio. C'est servi.
Alors Benoît Cohen, c'est formidable ce récit, Yellowcab. Voilà, ça sort chez Flammarion, ça sort quand aujourd'hui presque?
Non, c'est sorti il y a 2-3 jours.
Il y a 2-3 jours, donc il faut le temps qu'il soit dans les bacs et on vous reçoit. Vous êtes réalisateur, metteur en scène, scénariste. Le film le plus connu que vous ayez fait, je crois que c'est Nos Enfants Chéris, qui est aussi adapté, vous l'avez adapté pour la télévision en série, avec Mathieu Demy, Romane Boringer, plein d'autres gens. Et tout à coup, vous décidez d'écrire un film sur une femme qui est actrice, qui est chauffeuse de taxi en attendant. Et pour écrire ce film, vous décidez de devenir vous-même chauffeur de taxi à Brooklyn. Et tout à coup, c'est ce récit, c'est le récit d'un mec qui décide d'être chauffeur de taxi, mais pas pour vivre, pour étudier, d'être une sorte de quoi, une sorte d'espionnage, enfin de comme les acteurs en fait. C'est les acteurs on dit qu'ils essayent les métiers avant de les pratiquer au cinéma.
Ouais, bah De Niro avant de faire Taxi Driver avait conduit un taxi pendant plusieurs mois. Et là, oui voilà, moi je voulais pour écrire le scénario pouvoir vraiment vivre ça de l'intérieur. D'autant plus que comme c'est aux États-Unis que je venais d'arriver, je me disais que pour que ce soit un peu réaliste. Il fallait que ce soit du vécu, quoi.
Alors, il y a tout le parcours du combattant. Donc, vous arrivez, vous êtes français, déjà, et il y a toute l'inscription. Racontez un petit peu comment on peut devenir chauffeur de taxi, comme ça, quand on n'y connaît rien. Vous aviez quoi, juste votre permis?
Et même mon permis ne valait plus rien aux États-Unis, parce qu'après 3 mois aux États-Unis, il faut repasser son permis, en tout cas dans l'État de New York. Donc, j'ai dû tout refaire. J'ai dû repasser mon permis, et ensuite, je tapais sur Internet comment devenir chauffeur de taxi. Ça avait l'air assez simple. Et en fait, ce que je raconte dans tout le début du livre, c'est que c'était quand même une espèce de succession de situations hallucinantes. Mais ce qui était le plus incroyable, c'était cette population de gens. La première fois que je suis arrivé pour m'inscrire juste à la commission, il y avait 2 pâtés de maison de queue, 8 heures d'attente. Et je me disais, mais j'arriverai jamais à avoir un taxi. Il y a tellement, tellement de monde. Et en fait, petit à petit, à force de se faufiler là-dedans, de trouver des solutions. J'ai réussi à avoir... Le seul problème, c'est que je pensais avoir ma licence. J'avais prévu de l'avoir en octobre pour commencer avec l'été indien plutôt agréable. Et je l'ai eu finalement le 2 janvier. Il faisait moins 10 degrés, il neigeait. Donc j'ai commencé mon expérience de chauffeur de taxi à la dure.
Mais alors c'est ça, moi j'avais l'impression... Nous on croit toujours que l'Amérique, c'est moins bureaucratique qu'ici, que c'est très simple, que tout est pour la libre entreprise, qu'on peut monter une société et bosser dès le lendemain. Pas du tout, hein.
En fait, si, parce que, par exemple, entre passer sa licence de chauffeur de taxi à New York et ici, ça n'a rien à voir. Et d'abord, c'est beaucoup moins cher là-bas. Tout le monde peut le faire. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais dans une situation, le fait que je sois français, que je n'ai pas le bon permis, il y avait plusieurs choses qui ont fait que ça m'a compliqué les choses, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Ça reste beaucoup plus simple.
Bon, alors là, on voit un moment où vous finissez par l'avoir, votre permis. Alors, il y a tout un truc, des allers-retours de papier. On vous voit, on souffre pour vous. Je me dis, merde, je vous imagine attendant. Et puis, il y a une dame qui se prend de sympathie pour vous, donc elle accélère un peu les trucs. Donc, on voit que c'est quand même l'humain qui l'emporte, même dans le système bureaucratique. Vous avez votre permis, vous êtes chauffeur taxi. Là, il y a tout le rapport à un mec qu'on appelle le dispatcher.
Ah oui, le dispatcher. Alors, le dispatcher, depuis qu'il y a Uber, il est plus sympa. Parce qu'avant, comme il n'y avait pas Uber, pour avoir un taxi, c'était l'enfer. Il fallait lui donner un bakchich. Enfin, c'était... Maintenant qu'il y a Uber, il y a une petite table avec des croissants, enfin avec des donuts.
Ah oui, il y a la concurrence, donc voilà. C'est plus sympa. Ouais.
Il y a du café. Donc, le dispatcher est devenu beaucoup plus sympa grâce à Uber.
Donc, il est là. Donc, chaque matin, il faut quand même y retourner, parce que ce n'est pas votre voiture. C'est le fameux taxi jaune légendaire, hein, le taxi new-yorkais. D'ailleurs, lui-même, j'aime bien dans vos formateurs, il y en a un qui dit, vous êtes l'honneur de cette ville. C'est aussi connu que l'Empire State Building, le taxi new-yorkais. Il y a comme ça, il y a des prêcheurs, il y a des mecs qui vous remontent le moral.
Ah oui, c'est complètement iconique. Mais d'ailleurs, le taxi jaune, c'est vachement intéressant, parce que qui que ce soit à qui je m'adressais par rapport à cette expérience, le fait que j'aurais conduit un taxi à Paris, ça n'aurait pas du tout fait le même effet. De dire que j'avais conduit un taxi jaune, c'est comme si j'avais été sur la Lune, quoi. C'était quelque chose de... Et c'est vrai que je comprends pourquoi, parce que la particularité de New York, c'est qu'il y a tellement de gens différents qu'à chaque fois que la porte du taxi s'ouvre, on ne sait pas qui va arriver. On ne sait pas. Il peut se passer n'importe quoi. Alors, ce que je raconte en juste 4 mois, vous voyez dans le bouquin le nombre d'expériences, d'anecdotes, etc. C'est d'une richesse incroyable.
Alors, on va revenir là-dessus. C'est vrai, dans les grands taxis connus, on dit quoi ? Il y a le taxi londonien qui est légendaire, mais à cause de la forme de l'objet lui-même. Il y a le taxi japonais, je crois, je connais.
Avec
pas,
les gants blancs, mais il y a surtout le taxi new-yorkais.
Et le taxi new-yorkais. Et c'est l'expérience, c'est le monde entier qui vous conduit. D'habitude, c'est le monde entier qui est passager. Là, c'est le monde entier. Benoît Cohen, vous restez avec nous. Ça, j'adore ces phrases aussi de radio. Vous restez avec nous.
C'est tout de suite.
On vous reprend. Et Atmen, vous allez nous parler du livre que vous avez lu. Et c'est tout de suite le journal de Thierry Paré. Il est 8h, il est 8h01.
Dans la mythologie grecque, Zeus est le dieu suprême. En ce lundi 6 mars 2017, il est surtout le nom d'une tempête qui va s'étendre de la Bretagne à l'Auvergne. Plus d'une vingtaine de départements ont été placés en alerte orange pour vents violents et vagues submersion. La fin de l'événement, elle est prévue que demain matin à partir de 10h. On connaît désormais la triste fin de l'affaire des disparus d'Orvault. La famille Troadec est portée disparue depuis le 17 février. Placée en garde à vue ce week-end, le beau-frère du père de la famille a avoué le quadruple meurtre, une affaire sur fond de disputes autour d'un héritage. Il n'y a pas d'alternative à une Europe à plusieurs vitesses pour éviter l'explosion de l'Union européenne. C'est ce qu'estime François Hollande dans un entretien publié ce matin dans plusieurs quotidiens européens. François Hollande qui va réunir aujourd'hui un sommet quadripartite à Versailles avec la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Aujourd'hui, objectif officiel, préparer les réformes de l'Union européenne en vue du 60e anniversaire du traité de Rome tout en tenant compte du Brexit. Et puis dans ce même entretien pour différents journaux européens, François Hollande juge aussi que la menace d'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle existe, même s'il estime que la France ne cédera pas à la tentation de l'extrême droite. Fort du rassemblement de ses partisans, place du Trocadéro hier, mais fragilisé par les affaires et les défections dans son propre camp, on pense bien sûr à Gérald Darmanin, François Fillon a confirmé aux 20h de France 2 qu'il maintenait sa candidature. Plusieurs noms sont régulièrement cités ces dernières semaines pour éventuellement remplacer François Fillon, en premier lieu celui d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux, arrivé deuxième à la primaire de la droite, a prévu de faire une déclaration à la presse ce matin à 10h30. On attend la réaction d'un instant à l'autre de Gérald Darmanin. Les salariés de Pôle emploi sont appelés à la grève aujourd'hui par leur syndicat, sauf la CFDT et Gérald Darmanin. Ils dénoncent leur mauvaise... Pardon, non, ça va beaucoup trop loin. Ils dénoncent, et c'est très sérieux...
Non, c'est parce que ce matin, t'es obsédé par Gérald Darmanin, pour ceux qui se réveillent. Voilà, il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel...
Il y a
Gérald Darmanin qui a dit qu'il ne soutenait plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des noms qu'on ne connaissait pas avant. Il y a des gens, on apprend leur existence que quand ils quittent leur fonction. Et on a ça dans tous les partis politiques. Tout à coup, il y a des crises d'égo. Il y a un mec qui annonce à la presse entière qu'il quitte ses fonctions qu'on ne savait pas qu'il occupait. Pour moi.
Les salariés de Pôle emploi, donc en grève, ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, les effectifs insuffisants et notamment la numérisation, l'automatisation à outrance. Lors d'un meeting à Istanbul, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a estimé que la décision de plusieurs villes allemandes d'annuler des meetings de ses soutiens n'était pas différente des pratiques nazies. Les relations entre Ankara et Berlin se sont nettement tendues après l'annulation jeudi et vendredi dernier en Allemagne de 3 meetings de soutien au référendum turc du 16 avril, référendum qui portera sur une réforme constitutionnelle destinée à renforcer les pouvoirs du président turc.
Il est vite dégainé le mot nazi, tout de suite, c'est toi le nazi, c'est une méthode de nazi, ça les nazis ne faisaient pas mieux. Bon.
C'est un gros mot.
Un mystérieux dolmen, vieux de plus de 4000 ans, décoré de gravures, a été découvert en Galilée, dans le nord d'Israël. La pierre utilisée pour le couvrir pèse 50 tonnes et alors personne n'arrive à expliquer comment ceux qui ont construit cet édifice, donc il y a 4000 ans, ont pu soulever une masse aussi énorme. La chambre qui se trouve à l'intérieur de ce monument mesure 2 mètres sur 3, des dimensions qui prouveraient que l'édifice n'a pas été érigé par une tribu de nomades, mais bien dans le cadre d'une société disposant d'une structure de pouvoir capable de mobiliser des énergies et des technologies.
Ce sont des extraterrestres, moi.
Cette propagande pro-Netanyahou que vous faites depuis une minute me scandalise énormément, me dire en gros ce que vous dites, c'est grâce à ce gouvernement Netanyahou, Vous voyez, c'est des sujets très difficiles à chaque
pas
fois nous,
tribu,
qu'on parle d'Israël, de Palestine et tout ça, on fait tous attention vraiment parce qu'on se fait engueuler. Et là, vous nous sortez, ils sont formidables, ils ont sorti un dolmen. Moi, je suis gêné éthiquement.
Le décès, on va y revenir quand même un instant, du réalisateur Jean-Claude Averty, qui nous a donc quitté ce week-end à l'âge de 88 ans.
Jean-Christophe Averty,
excusez-moi, Jean-Claude, n'importe quoi. Déjà couronné du Grand Prix du jury à la Berlinale, le film Félicité du franco-sénégalais Alain Gomis a remporté ce week-end l'étalon d'or de Yenenga, le Grand Prix du 25e FESPACO. C'est le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au Burkina. C'est un événement.
Je rebondis là, je tourne jeudi avec Michel Gohou, qui est la grande star de Ouagadougou, qui est le plus grand contacté en Afrique francophone. Nous parlerons de ça. Nous serons en duplex avec
on
Michel Gaud d'Afrique
du Sud. Jean-Claude Averty et Jean-Christophe. C'est,
ah non, j'ai
Jean-Claude.
Détesté. C'était grave.
Moi, j'ai pas du tout.
J'ai pas aimé.
Peut-être vous voulez parler de Jean-Claude Brialy.
J'ai pas aimé ça. Ça ne m'a pas plu.
Je suis désolé.
Ça ne m'a pas plu. Mais finissez votre journal. On y reviendra.
Qui a travaillé et qu'on appelle Jean-Claude. T'as qu'à m'appeler Aziz aussi.
Je l'ai pas appelé Gérald.
Ben oui, il a qu'à m'appeler Aziz. Aziz Khalif.
Vous appelez comme ça?
Non, pas du tout.
Ah pardon.
Qui pour arrêter Monaco en Ligue 1? Bah pas Nantes en tout cas. Hier soir Monaco.
Je vais arrêter Monaco en Ligue 1. C'est moi. Ils sont où? Ils sont où les Monégasques? Ils sont où? Ils sont où? Je les prends tout seul, moi. Ils sont où? Je les prends là, les
Vous allez casser du matériel.
Allez, les Jean-Claude, tous avec moi.
Tous les Jean-Claude.
Pardon, pardon, sortez du journal.
Alors,
pardon.
Qui pour arrêter Monaco? Bah, pas Gérald Darmanin, en tout cas. Hier soir, Nantes a perdu à Monaco le score 4-0. Et puis, le Français Kevin Mayer est devenu champion d'Europe en salle de l'heptathlon hier à Belgrade. Vice-champion olympique du décathlon. Il a amélioré.
Vous dites
la
pas
marque
ce que c'est
légendaire.
Que l'heptathlon.
L'heptathlon?
Oui.
C'est une discipline sportive.
Sportive. C'est normal qu'il gagne, Kevin Mayer.
Attendez, attendez, il ne sait pas. Attendez, attendez, Atman. Oui, oui, Thierry Paré.
Qui est composée elle-même de plusieurs disciplines.
Ah.
Alors, vous voulez qu'on rentre dans le détail? Il y en a pour une heure. Je peux le faire. Je peux
c'est
le
facile,
faire.
Ça, de dire
je
qu'il y en a pour une heure.
Je ne sais pas si c'est utile pour les auditeurs.
Attendez,
j'en sais rien.
Je ne vous ai pas interrompu. Ne m'interrompez pas. On finit là-dessus?
Moi, je pense que les auditeurs n'ont pas à être pris pour des gogos. Ils savent très bien ce dont on parle.
Non. Eh bien, moi, en tant qu'auditeur, puisque j'écoute parfois l'émission,
auditeur
c'est pas,
lambda.
Et ça n'est pas, je n'ai pas terminé le meilleur moment de ma journée. Déjà, quand j'entends qu'un mec s'appelle Kevin Mayer, oui. Je me dis, des Kevin, c'est une génération qui n'a pas été renouvelée. Parce qu'il y a une génération de Kevin et 5 ans après, on est vite passé à autre chose. Donc, déjà, c'est très grave ce que vous faites. Sur Kevin, vous ne vous trompez pas, alors que sur Averty, vous envoyez du Jean-Claude à Veux-tu en voilà,
voilà hein,
du Jean-Claude Carrière, du Jean-Claude Brialy, sur mon petit Jean-Christophe Averty, qui se retourne dans sa tombe quand il entend qu'ensuite on parle du leptathlon, qui à mon avis a un rapport avec la lep. À tout de suite, je sais pas. Non, attendez, non, j'aimais bien cette chute-là, mais non. Armel,
oui,
vous avez fini ou pas?
Oui, j'ai terminé, bien sûr.
Tito, on fera plutôt la météo à 8h30. Est-ce que, avant de reparler avec Benoît Cahen de son formidable Olivier Locab, on est dans la rue avec Jacques Souvent, qui tout à l'heure essaie de régler un problème de circulation rue Le Pic, la rue iconique d'Amélie Poulain, montée à Montmartre? Non, parce
toujours
qu'on
bouché.
Est bloqué par. Voilà.
Toujours bouché.
Ouf. Là, on entend une boîte à musique.
Amélie Poulain.
Ah oui. Vous étiez dans Amélie Poulain, toi, vous?
Non, je n'y étais pas.
Vous n'aviez pas été engagé?
Pas du tout, je n'ai pas passé les essais.
On ne m'avait pas appelé.
Par contre, j'allais boire des coups aux deux ânes, aux deux moulins. Aux deux moulins, ouais. Pardon.
Moi, je n'avais pas été appelé non plus.
Non plus, on n'a pas été
appelé. Chut, bah, sur l'anglais, chut. C'était la musique d'Amélie Poulain?
Oh, bravo, vous êtes fort. Ouais, on est en face du café des deux moulins. Et voilà. Vous appelez comment? Farouk. Je suis avec Farouk, et Farouk il me disait le matin, Amélie Poulain, c'est les ouvriers, et l'après-midi, c'est les touristes. Touristes, en effet, il n'y a que ça toute la journée, jusqu'à 2h du matin à peu près.
Oui.
Quand vous dites qu'il n'y a que ça toute la journée, c'est des groupes d'Asiatiques, d'Américains, toute la journée, qui viennent nous voir ici au Café des Deux Moulins, voilà. Oh, parce que le barman, tout à l'heure, me disait, ça fait 14 ans déjà le film. Ouais, le barman, ouais, il connaît quelque chose, ouais, depuis, lui, ça fait à peu près 5 ans qu'il est là, et il les voit défiler, ouais, tous les jours, c'est toujours la même histoire, hein. Voilà.
Et il boit le barman, lui, ou il a...
Ouais, lui, il boit énormément, ouais. Ouais, il a des grosses cernes tous les matins, mais ça va, il est assez agréable à vivre.
C'est une tentation dans le métier du bar, évidemment, il y a une proximité avec les bouteilles qui crée évidemment une tentation.
Ah ouais, lui, une grande proximité avec les bouteilles.
Et vous-même, Farouk, quel est votre rapport à l'alcool?
Moi, assez léger, le week-end surtout.
Oui, le week-end quand même, Farouk, il y a un petit souci.
Farouk, tiens, vous êtes épicier, juste en face. Ouais, primeur juste en face. Ouais.
Farouk, on va se parler d'homme à homme. Donc en semaine, c'est quand même un petit verre de vin déjeuner?
Non, vraiment pas. Le Farouk. Soir, du coup, Farouk. Une petite bière ou deux.
Voilà, deux ou trois. Déjà, on est déjà en semaine sur trois. Hein, on est déjà sur trois, quatre. Hein. Puis à votre femme, vous annoncez quatre, on est sur cinq. Et ensuite arrive, on est donc sur un litre et demi de bière déjà quotidien. Si on multiplie par 7, ça fait 10 litres de bière. Sauf que le week-end, il y a excédent, il y a excès, il y a abus, il y a la petite fête avec les copains. Et là, on est
exactement.
Sur combien? Farouk arrive le vendredi soir, on baisse le rideau de fer de l'épicerie. Et là, on part sur quoi?
On reste en comptoir, on bouge plus, on attend qu'il tire le rideau et là, ça peut aller jusqu'à une petite dizaine de verres de vodka.
Je crois, Farouk, je crois. Bière. Passez-moi votre foie.
Ce qu'il en reste, hein.
Moi, j'aime bien l'idée, l'excuse, c'est que vous en avez marre de tous ces touristes asiatiques, américains. Tu sais, le mec, il cherche des prétextes pour boire un coup. Oh, je veux boire un coup, là, il me fatigue.
Ouais, non, mais ils sont fatigants à la fin. Ouais. Non, mais heureusement qu'il reste pas mal de commerçants du coin qui sont vraiment très agréables, très rigolos, et on boit pas mal de coups ensemble.
Alors,
ils
vous savez,
pour m'accompagner.
Ce genre de groupe en Afrique, ils les appellent les tamalous. Parce que c'est toujours des gens âgés qui disent « T'as mal où aujourd'hui ?» et tout ça.
Je la connaissais pas, celle-là, elle est pas mal.
Et dites-moi, est-ce qu'ils demandent toujours le Amélie Poulain-Tour? Ça existe vraiment? Ça demande les lieux où a été tourné le film?
Ah ouais, 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 bien sûr. Ouais. Surtout qu'en plus, il y a l'épicerie un peu plus haut dans la rue. Ouais, ils font le tour, ouais, ils viennent nous voir. Il y a des petits trains de touristes. Ouais.
Alors vous-même, vous vous déguisez en personnage du film, en Jamel Debbouze ou en Mathieu Kassovitz pour recevoir les touristes?
Ouais, j'essaie de leur faire des petites blagues, ouais, c'est pas mal, ouais, ça les fait pas trop rire, mais bon, ça me fait un peu de défense.
Il faut que vous les traduisiez en coréen du Sud, il y a beaucoup de coréens du Sud en ce moment.
Ouais, énormément, c'est vrai, bon, ils sont très rigolos, ils sont marrants, ils rigolent toujours.
Bah, vous me disiez que ça faisait pas rire vos blagues. Ah, ils rient au moment où c'est pas drôle?
Bah, ils comprennent rien, surtout, je crois.
Ah, mon Dieu, vous n'êtes pas pour le rapprochement entre les... Farouk, bonne journée.
Également, merci. Hein, votre gars, il est très agréable en
tout cas. Oui, bah attention, oui. Vous allez le voir. Au bout de 10 minutes, c'est très vite autre chose. Il bascule très vite dans la
boisson. Mais c'est pas le rideau. Hein.
Salut.
Je vous dis un peu ce qu'il a bu ou pas au bar?
Oui, allez-y.
Bon, il a pris un café avec un calva.
Oui, mais vous savez pourquoi? C'est le verre de contact.
Ouais, je crois que c'est pour le contact.
Oui, oui, oui.
Comment
oui.
Il fallait s'y prendre avec moi.
Salut.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Merci, c'est les voix de Guylaine Londès et d'Alcabalbière. Mais c'est quoi ces sons-là? Il y a où la pub ou des comblages sons? Armel, c'est
Édouard Baird, je vous réexplique.
Oui,
tout.
Bah, oui, mais...
La pub, c'est quelque chose de compliqué avec plusieurs régions en France et ce n'est pas les mêmes pubs partout. Il n'y a pas les mêmes durées partout. Donc parfois, certains entendent des comblages, c'est-à-dire
oui,
des chants,
c'est pas,
des
ondes. C'est pas heureux, hein. Je vous le dis.
C'est très bien fait.
Alors, on est toujours Benoît Cohen, ouais. Yellow Cab, son expérience de chauffeur de taxi new-yorkais, au départ pour écrire un film. Vous vouliez écrire un film sur une femme qui fait ça comme petit boulot et vous vous êtes pris au jeu. Moi, ce que j'aime bien dans Yellow Cab, c'est que tout à coup, vous êtes assez grisé par cette vie, par toutes les rencontres qu'il y a quand on est chauffeur de taxi à New York.
Oui, c'est vrai que j'ai été complètement... Au départ, je m'étais dit, tiens, je suis réalisateur, je vais aller à la mauvaise adresse, je vais mal rendre la monnaie pour créer des situations pour mon film. Et après une course, c'était terminé, j'étais chauffeur de taxi, j'ai plongé tête la première dans cette expérience. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais une espèce de manque. Parce qu'au bout d'un moment, je travaillais un jour comme chauffeur, un jour j'écrivais pour pouvoir tout garder en mémoire. Parce que comme... Même si j'enregistrais tout avec un petit enregistreur dans la
Vous étiez le Patrick Buisson du taxi, vous enregistrez toutes les conversations.
Ce qui d'ailleurs, aux États-Unis, quand je l'ai dit à une ou deux personnes, c'est totalement illégal. Donc après, je l'ai plus répété à personne. Je le dis ici en France, mais aux États-Unis, c'est pas du tout quelque chose à faire.
Alors, c'était le soir que vous compulsiez les histoires ou tout de suite après que le client sortait?
Alors ça, moi, je m'en fous de ça, cette question.
Si, bon,
alors,
non,
après.
Parce qu'elle est, non, elle est intéressante.
Après.
Si je décide qu'elle est.
Ah non.
Ah si, je décide qu'elle est intéressante.
Qu'est-ce que vous voulez? Oui.
Non, mais je voulais savoir si la personne, il fallait attendre.
Alors, je vais répondre rapidement, Edouard.
Oui. Après, vous direz si c'est plutôt avec un crayon ou avec un feutre.
Oh,
ou si c'est tapé directement sur l'ordinateur. Oui, Atman, vraiment. Notre maco-journalisme, je sais pas vous.
Non.
Donc après chaque course, je notais le nom du client. Enfin le nom. Excusez-moi.
Est-ce que
tu as lu le bouquin?
Oui, je l'ai lu.
Il y a un style télégraphique.
Je l'ai lu. On va y. Pardon, Benoît, mais c'est très grave.
Il y a un style télégraphique.
Ce qui est formidable dans le livre, c'est après c'est le journal de chaque client qu'il a eu avec l'horaire.
C'est pour ça qu'il faut savoir. Oui, s'il le faisait tout de suite.
Non, ça je m'en fous.
Vous voulez que je vous donne un exemple?
Je vais manger un croissant, écouter le live. Moi, je quitte le studio.
Voilà,
je quitte la France.
C'est une bonne nouvelle.
Bah voilà.
Est-ce que vous voulez?
Je voudrais un extrait de votre journal de bord.
Alors, par exemple, 14h20, 13e et Madison Avenue. Femme, 40 ans, en retard à un rendez-vous chez un médecin. Dès que je double une voiture ou passe au feu orange, elle crie comme si je la faisais jouir. Yes, good job. $11.30.
Écoutez, vous choisissez 9h40. Vraiment des choses racoleuses.
Oui, on est là pour ça. 9h40, 39e et Broadway. Homme, 50 ans, épais et barbu. Il passe le trajet au téléphone. Il donne des ordres de vente et d'achat sur des alcools rares. Il parle de bouteilles de whisky japonais à $15,000, de rhum du début du siècle dernier à plus de 20 000. À l'arrivée, il me laisse 50 cents de pourboire. $17.80. Et une dernière, 10h55, 30e et 5e avenue. Jeune femme, glaciale, qui sent mauvais en plus. Elle a pété, je crois. Seul événement notable de la matinée, $9.80.
Merci Benoît Cohen, c'est dans Yellow Cab chez Flammarion, c'est sorti il y a deux jours. Alors est-ce que ça rend plutôt misanthrope d'être chauffeur de taxi ou au contraire vous avez de la tendresse pour vos clients, pour la banquette arrière?
Non, il y a beaucoup de tendresse, d'autant plus que je cherchais le contact. Parce que si jamais on se contente de conduire en écoutant... la musique ou au téléphone, il n'y a aucun contact. Les gens n'ont pas forcément envie de venir vers vous. Donc moi, comme j'étais quand même là pour récupérer des informations pour le scénario, je leur parlais tout le temps. Et du coup, il y a vraiment un rapport. Et ce qui est extraordinaire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des gens tous très différents. Et du coup, je me suis vraiment prêté au jeu et j'ai adoré ce. Je pensais connaître New York et les New Yorkais, parce que en plus, j'avais fait mes études de cinéma à New York longtemps avant. Et en fait, j'ai vraiment découvert cette ville de l'intérieur.
Il faut parler à son chauffeur de taxi et il se passe toujours des choses étonnantes.
Maintenant que je parlais déjà pas mal au chauffeur de taxi avant, mais maintenant que j'ai vécu cette expérience, je parle systématiquement au chauffeur parce que c'est vrai que c'est un lieu de rencontre où en fait on sait que la personne qu'on a en face de nous, derrière nous, oui. On ne la reverra jamais. A priori, sauf vraiment exception, ça m'est arrivé une fois d'avoir deux fois les mêmes clients, ce qui était hallucinant. Mais donc on peut raconter n'importe quoi.
C'est ce qu'ils disent, il y a un chauffeur taxi qui vous dit c'est ça. C'est pour ça que les gens se livrent complètement, c'est un one shot, c'est un psy pour une fois, donc on peut tout lancer. Dites tout à tout le monde. Merci Benoît Cohen, Yellow Cab chez Flammarion, oui. Avec la participation d'Atmen Kelly pour
avec
la question.
C'est bref de taxi.
Est-ce que vous notiez, puisque vous avez écrit un livre de expérience au taxi, est-ce que vous notiez juste après la course ou plutôt le soir ou le lendemain matin? Qu'est-ce que j'en ai
Mais
à
c'est
foutre.
Intéressant à savoir s'il gardait tout en mémoire ou pas.
Et vous, Marie Missé, est-ce que, oui. Par exemple, vous êtes plutôt votre revue de presse, vous l'écrivez une première fois, oui. Juste après avoir lu la presse, ou vous lisez la presse, vous digérez, vous l'écrivez après?
Ben, j'ai pas trop le temps de la digestion, mais enfin, si, il faudrait.
Donc c'est à chaud, quoi.
Ça endort.
Vous êtes à chaud. Vous n'êtes
oui,
pas comme
chaud.
Un crocodile, vous ne dormez pas la bouche ouverte.
Non, pas comme un serpent non plus.
Eh bien, vous êtes voir votre jingle.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Pas que je dise que je n'ai pas le temps de digérer, j'ai vachement le temps de digérer. Tout compris.
Vous avez une beauté intérieure, vous avez le plus beau système digestif de Radio Nova.
Merci, Edouard. Alors, vous imaginez bien que ce matin, c'est François Fillon qui fait la une dans la plupart des quotidiens nationaux. Et alors, Le Figaro, qui titrait encore jeudi dernier, François Fillon tient bon face à la justice. Et il y avait un éditorial jeudi dernier qui se fendait d'une défense en bonne et due forme du candidat. Eh bien, on sent chez Le Figaro ce matin un très léger changement de cap suite à la sortie d'un sondage Le Figaro LCI qui annonce que François Fillon ne passerait pas le premier tour. Eh bien, du coup, pour la première fois dans le journal, on entrevoit qu'effectivement, François Fillon pourrait se retirer. C'est Guillaume Tabar qui signe l'édito et qui le dit. Il ne dit plus qu'il ira jusqu'au bout. L'appel de Fillon peut donc aussi être une injonction à défendre et à préserver sa ligne victorieuse avant d'accepter de discuter. Dans Libé aussi, on évoque cette possibilité. Certains ont pensé qu'il faisait un testament politique, on lit. Mais surtout dans Libé, la manif d'hier, ça a été l'occasion pour le journaliste de rigoler un petit peu, puisque l'article sur les manifestants commence par « Je t'avais bien dit de prendre les bottes de cheval d'une mère à sa fille » et se termine par un militant trempé qui résume son après-midi en disant « 25 ans que j'avais pas pris le métro, merci Fillon ». Voilà, entre les lignes, le journaliste est moins subtil que son comparse du Figaro. C'est une certaine France qui porte des bottes de cheval et des sonotones qui défilaient hier. Je reprends les mots de Libé. Le Monde, eux, eh bien, ils osent pas trop les pronostics, mais ils titrent quand même ce matin « Fillon maintient sa candidature, Juppé sort du silence ». C'est à vous de jouer aux devinettes maintenant. Que se passera-t-il dans le prochain épisode, renchérit le Parisien, et de filer la métaphore avec les séries, en rappelant que François Fillon est fan de séries américaines et qu'il se la joue un peu Frank Underwood. C'est le candidat démocrate de la série House of Cards qui ne recule devant rien pour le pouvoir. Tout le monde, en tout cas, de la Croix aux Échos, en passant par l'UMA et le Figaro, est d'accord sur un point. La crise politique s'aggrave à droite. Alors, à qui la faute? Parce qu'on cherche toujours des coupables. Eh bien, c'est là que les réponses divergent, et en même temps, moins que ce qu'on pourrait penser. Hier, tandis que, voilà, le directeur de la publication de la Stradingue, magazine culturel et gratuit sur Nice, exaspéré qu'on voit sur BFM les images de la manifestation pro-Fillon au Troca, mais pas celle de la manif anti-corruption de la place de la République, disait dans un post rageur hier, ras-le-bol de ces médias de droite et d'extrême droite, ce à quoi quelqu'un lui a répondu, désolé, mais les médias sont de gauche, ce à quoi il a encore répondu non, pas vraiment. Dans Libération, les manifestants interviewés sont plutôt d'accord avec la dame sur les médias. On a tranché, autre cas, les médias sont de gauche. Pire, les médias sont bobo. Alors, bien sûr, la justice et ses juges qui ont des opinions politiques et tous ces hommes qui ont lâché François Fillon, comme Thierry Solaire, qui d'après un manifestant serait franc-mac, et ça expliquerait tout, eh bien, sont aussi dans le collimateur de ceux qui sont sortis dans la rue hier pour François Fillon, qui les a d'ailleurs traités, on l'apprend dans Libé, de déserteurs sans honte ni orgueil, dont les Français devraient être dégoûtés. Les Français devraient même être submergés par le dégoût. Mais la force des médias et des bobos, c'est d'être dans le collimateur de tout le monde. Car dans Libé encore, qui est allé faire un tour à la manif à République contre la corruption des politiques, on l'apprend de la bouche d'un militant de la gauche paumée, comme il se présente. La France est un pays de droite, contrairement à ce que racontent ces bobos parisiens qui voient tout en noir et tout en blanc. Des bobos dont même chez Europe Écologie Les Verts, on ne veut plus, hein, puisque La Croix publie un beau portrait de la députée européenne Karima Delli, très présente au Parlement européen. Et ce portrait est titré « L'écologie, loin des bobos ». Pauvres bobos, hein, on n'en veut pas au Trocadéro, on n'en veut pas Place de la République, on n'en veut pas dans leurs AMAP. Que leur restera-t-il ?
Merci beaucoup Marie Missé. Vous-même, vous vous sentez ancré dans le pays réel ?
J'ai l'impression, de par mes nombreux trajets en métro et sous la pluie, de faire partie un petit peu de cette France réelle.
Et Tito, vous êtes quoi ? Vous êtes hors sol ? Vous êtes dans le quotidien ?
Je suis de la France libérée, moi. Je suis un homme libre. Je cours.
Délivré.
Ouais.
Vous vous baladez avec votre guitare ?
Voilà, je suis un ménestrel.
Oui.
Je me promène, je joue où je veux, je bois ce que je veux.
C'est parce que vous n'avez pas de gros besoins financiers, c'est ça qui vous permet d'être libre ?
C'est parce que j'ai plus de femme, surtout.
Ah oui.
Ça coûtait cher, couillon, je me suis libéré.
Mais comment vous en êtes libéré ?
Admène en face qui dit c'est pas moi.
Mais vous m'aviez dit que c'était elle qui était partie.
Non, c'est elle qui m'a mis dehors.
Admène, vous-même ?
Moi, je suis un homme en colère.
Oui.
Je suis là, je travaille sur une petite question très pertinente.
Mmh.
Et
oui,
il y a quelqu'un qui arrive.
Oui.
La gueule enfarinée.
L'interview de Benoît Cohen ?
Voilà, qui arrive la gueule enfarinée d'Afrique du Sud, sans avoir rien bossé, et qui me renvoie à la gueule que ma question n'était pas pertinente.
Justement, le fait d'aller tourner un film d'Afrique du Sud tout en restant à l'antenne, par respect et tendresse pour les auditeurs, m'a permis de prendre un petit peu de recul.
Oui.
Et j'ai entendu certaines questions dans cette émission Mon Absence, certains salisseurs de mémoire.
Certains sketchs.
Certains scribouilles. Alors, je voudrais revenir. Il y a eu un sketch. Je ne sais pas si vous écoutiez la radio jeudi dernier. Armel, vous étiez là. J'ai vu les pics d'audience à ce moment-là qui étaient sous zéro. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui désécoutaient Radio Nova, il y a des gens qui écoutaient contre Radio Nova, qui n'écoutaient pas RTL ou Culture ou RTL, ils écoutaient contre Nova. C'est au moment où Admène Khalif avait un sketch avec Christophe Méné, j'ai envie de dénoncer, qui l'interview d'une vache au sein de la culture.
Alors,
j'ai entendu des choses consternantes dans ma vie, Armel, mais là j'ai eu des appels, j'ai eu Jean Roucas qui est au Front National, il y a Franck de la Personne au Front National qui m'a dit « Donne-moi le sketch, je vais le faire avec Philippot ». Enfin, c'était un moment, il y a une interview, c'était mal écrit, c'était joué sans conviction, il y avait une envie
j'ai
de perdre
ma carte à d'amis, j'ai perdu ma
chez
carte.
Les deux interprètes. Armel, vous qui avez vécu ça en live.
Et ben c'est très étonnant car ce sketch est le plus podcasté au monde.
je comprends plus mon pays.
Merci Armel.
Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h.
Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même.
C'est la voix de Tito, là, très jolie. Venez, Lydiane, approchez-vous une seconde, juste avant le journal qui va commencer. Lydiane, d'habitude, c'est Constance qui est là à la réception. Aujourd'hui, c'est vous ?
Oui, c'est moi.
Mais alors, vous êtes là combien de temps, vous ?
Juste pour aujourd'hui.
Mais alors, et sinon, les autres jours, vous bossez où ?
Je bosse à Vincennes.
Et qu'est-ce que vous y faites, là-bas ?
Je suis assistante RH.
Relations humaines ?
Ressources humaines.
Ressources humaines, donc vous assistez. C'est quand des gens ont des problèmes, ils viennent vous voir,
c'est
ils
ça.
Viennent voir votre patron.
Oui, grossièrement, c'est ça.
Et vous assistez à des drames ou pas ?
Non, jamais.
Non, il n'y a pas des gens qui s'effondrent ?
Non, jamais.
Mais si, Lydiane.
Non, jamais.
Si, raconte.
Oh, Lydiane, racontez.
Oui, racontez, on est un peu curieux.
Bon, écoutez, alors en tout cas, c'est gentil. Aujourd'hui, vous êtes à la réception ?
Oui.
Bon, eh ben, bienvenue en tout
merci,
cas.
Merci.
Voilà, Atmel.
Je voudrais changer de chambre, moi.
Non, c'est très drôle. Oui. Vous êtes le mec de la question tout à l'heure. À tout de suite. Il y a, qu'est-ce qui se passe, Eugénie, au téléphone ? Il y a Erel ?
Oui.
Pardon, juste avant le journal, Erel Pelé à Brest. Erel, il va y avoir une tempête en Bretagne.
Il y a déjà. Là, tous les arbres sont à plat, là. Il y a déjà une tempête.
Je rappelle que Erel Pelé est notre ami qui pêche la coquille Saint-Jacques là-bas dans la baie de Brest qu'on avait rencontré quand on était à Brest. Bon, alors qu'est-ce que tu fais là ? Donc tu vas pas sortir pendant plusieurs jours le bateau ?
En fait, là, je peux pas sortir de mon jardin parce que tous les arbres ont bloqué mon fourgon, mais j'avais pas du tout l'intention d'aller en mer de toute façon.
Bon, alors ça se manifeste, c'est très impressionnant. Il y a des énormes vagues là ? Il y a des creux ?
Ouais, il y a une belle mer de Norrois là, avec des belles vagues, mais la houle va se lever dans la journée, c'est le pire.
Fais-moi rêver, vas-y, décris-moi le paysage d'apocalypse que tu as devant toi.
Bah là, pour l'instant, je viens d'aller chercher du pain à la boulangerie, il y a plus d'électricité, alors...
Mais le pain est trempé, le pain, il est trempé, la mie est molle.
Mais non, Edouard, le pain, il est au sec, tu sais, des fois dans les maisons en Bretagne, il fait sec aussi.
Oh, je sais pas. Bon, bah alors, tu embrasses tes parents et tu embrasses Raymond, notre ami Raymond.
Ouais, d'accord, je vais lui dire, on était avec lui hier.
Allez, on restez pour le journal de Thierry Paré. Bisous, RL.
À bientôt, Edouard, gros bisous.
Pardon Thierry pour ce retard, c'est la faute d'Ahmed Khalif qui a posé une question à Benoît Cohen, un peu longue.
Je le savais.
Elle s'appelle Zeus, on vient d'en parler, c'est une tempête donc qui va s'abattre sur la France aujourd'hui, qui s'abat même en ce moment sur la France. Plus d'une vingtaine de départements ont été placés en alerte orange pour vent violent et vagues submersion de la Bretagne à l'Auvergne.
Mais pour le moment, Zeus n'a pas empêché RL d'avoir son pain au sec.
Elle nous a fait rêver quand il m'a demandé, t'allais acheter le pain, c'était bien.
Les rafales pourraient atteindre 150 km/h sur les côtes. La fin de l'événement, il est prévu que demain matin à 10h. La fin du mystère des disparus d'Orvault, hein, les quatre membres de la famille Troadec auraient été tués par l'ex-beau-frère du père de famille. Placé en garde à vue ce week-end, ce dernier aurait avoué le quadruple meurtre. À l'origine du drame, un trésor sous forme de lingots ou de pièces d'or qu'aurait caché la famille Troadec. Sommet quadripartite aujourd'hui à Versailles avec la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Objectif officiel, préparer les réformes de l'Union européenne en vue du 60e anniversaire du traité de Rome, tout en tenant compte du Brexit. Il n'y a pas d'alternative à une Europe à plusieurs vitesses pour éviter l'explosion de l'Union européenne. C'est ce que déclare François Hollande dans un entretien publié aujourd'hui dans plusieurs quotidiens européens. Et dans ce même entretien, le chef de l'État juge que la menace d'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle existe, mais il estime que la France ne cédera pas à la tentation de l'extrême droite. Fort du rassemblement de ses partisans...
Attends, j'aime bien cette expression. Regardez, la tentation de l'extrême droite, il y a un type qui est là, il est normal, tout bien. Puis à côté, il y a de l'extrême... C'est bien la tentation comme si c'était un truc excitant, c'est très tentant. C'est très tentant, la saloperie.
Fort du rassemblement de ses partisans, place du Trocadéro hier, mais fragilisé par les affaires et les défections dans son propre camp, on pense bien sûr à Gérald Darmanin ce matin, François Fillon a confirmé aux 20h de France 2 qu'il maintenait sa candidature. Plusieurs noms sont régulièrement cités ces dernières semaines pour éventuellement remplacer François Fillon. En premier lieu, celui d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, arrivé deuxième à la primaire de la droite. Il a prévu de faire une déclaration à la presse ce matin à 10h30. Les salariés de Pôle emploi sont appelés à la grève aujourd'hui par leur syndicat, sauf la CFDT. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, les effectifs insuffisants et notamment la numérisation, l'automatisation à outrance. La Corée du Nord a tiré presque simultanément 4 missiles balistiques qui ont parcouru environ 1000 km. 3 d'entre eux sont tombés en territoire japonais.
Je ne sais pas.
Lors d'un meeting à Istanbul, le président turc...
J'ai vu un portrait formidable hier du président...
Kim Jong-un.
Qui imite la voix de son grand-père, parce que son père n'était pas populaire. Celui qui était populaire, c'est le grand-père. Il paraît qu'il essaie d'imiter sa voix pour que les gens...
Ça fait quoi, à peu près
l'associe. Non, c'est Mitterrand.
Lors d'un meeting à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que la décision de plusieurs villes allemandes d'annuler les meetings de ses soutiens n'était pas différente des pratiques nazies. Allons-y gaiement. Les relations entre Ankara et Berlin se sont nettement tendues après l'annulation jeudi et vendredi dernier en Allemagne de 3 meetings de soutien au référendum du 16 avril, référendum turc qui va porter sur une réforme constitutionnelle destinée à renforcer les pouvoirs du président turc. Comme partout dans le monde, peut-être un peu plus qu'ailleurs quand même, l'Inde écrit son histoire en construisant des statues. La prochaine, elle sera celle du chef guerrier hindou Shivaji, statue de 190 mètres de haut, deux fois plus haute que la statue de la liberté. C'est simple, ce sera la plus haute du monde.
Super.
Le monument de bronze aura les pieds posés sur une île artificielle de 16 hectares à 4 km au large de Bombay.
Bravo.
Et il va coûter très cher. Pionnier de la radio et de la télévision, pionnier qui a révolutionné la mise en image et en son. Attention. Grâce à ses créations iconoclastes, déclaration de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Jean-Christophe Averty nous a donc quitté à l'âge de 88 ans. Déjà couronné du Grand Prix du jury à la Berlinale, le film Félicité du franco-sénégalais Alain Gomis a remporté ce week-end l'étalon d'or de Yenenga, le Grand Prix du 25e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision.
C'est un festival
de
génial, c'est tous les deux ans à Ouagadougou, moi j'y étais une fois, c'est extraordinaire.
C'est un gros événement, ouais. Effectivement. Qui pourra arrêter Monaco en Ligue 1? Certainement pas Nantes. Hier soir, Monaco à domicile a battu Nantes 4-0 en clôture de la 28e journée. Combiné de 7 épreuves d'athlétisme, je préfère le dire pour ceux qui ne connaissent pas trop l'heptathlon, parce que ça peut ne pas être évident.
Fais gaffe à ta gueule !
L'heptathlon a donc son taulier. Et son taulier, il est français, il s'agit de Kevin Mayer. Il est devenu champion d'Europe en salle de la discipline hier à Belgrade.
Je reçois Kevin.
Oui, Kevin.
Kevin, vous êtes l'inventeur.
Le fils de Dylan.
Non mais Kevin, il faut arrêter. Stop. Attendez.
Qu'est-ce qui se passe?
Vous avez
une Depardieu. Il faut un petit peu là. T'as une Depardieu aiguë.
Attendez, tout va bien. Vous avez posé tout à l'heure.
Une question.
Alors, il y a des Jean-Michel Ami, je vous salue. Le comédien Jean-Michel Ami est passé nous voir ce matin.
Bravo.
C'est très beau parce que je vous fais vivre visuellement. Dites juste bonjour aux auditeurs.
Et bonjour, chers auditeurs.
Moi, je suis sur le cul, là. Le mec était là. Le mec, il a dit bonjour. Et tout à coup, vous voyez les gens qui écoutaient l'émission qui disent ah oui, mais là, ça reprend vie. Il y a quelque chose, ça refleurit. Est-ce qu'on fait la météo de Tito ou Jacques Souvent d'abord ? Ça, vous me l'avez imposé, vous me l'avez envoyé, hein, le petit jingle. Merci, Armel. Oh là là, ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un massacre à la tronçonneuse?
On est en train de partir en moto.
Vous partez? Vous êtes en moto?
Oui, on part, on va
à quoi, consommer avec modération.
À Gennevilliers.
Non, c'est une grosse boîte, c'est des gros bureaux à Gennevilliers. Où, ah ouais. En gros, je suis commercial et je.
On y va ou pas?
Mais on est sur une grosse boîte là, on n'est pas sur du. Ouais.
Ah oui, c'est une grosse boîte. Ouais, je suis grave en retard là, j'ai déjà au moins 20 minutes de retard.
Les paquets de clubs tout à l'heure à 20€ la carte bleue, c'est pas possible.
Bah, on fait avec, hein. On n'a pas trop le choix. Alors. Si on fume, il faut assumer, non?
Et dans votre petite. Comment ça s'appelle derrière là?
Un top case.
Top case, dans le top case, vous avez vos petits croissants, votre petit jus d'orange.
Non, on est sur du gros, pourquoi petit? Non, non.
J'ai du thé chaud, j'ai des clopes.
J'ai du gros jus d'orange.
Ouais, c'est ce qu'il faut pour un bon petit-déj.
Parce qu'on était sur une grosse boîte dans l'informatique, hein, vous me disiez à Gennevilliers.
Ah ouais, je suis un grossiste.
Un grossiste, donc c'est du gros, c'est du lourd. Et sur ouais, le croissant, on est plus sur du petit croissant et du petit café, là, c'est plus modeste tout à coup.
On est plus sur du pain au chocolat, là.
Ouais, donc en fait, on va du micro au macro, quoi. Vous êtes dans le petit, dans le grand, vous évoluez entre les deux.
Je pars petit, mais je finis toujours très gros.
Oui, bah c'est ça le problème.
Alors, je vais faire un tour.
Ok.
Donc, il y a Jack Souvent, passager derrière vous, là, sur la moto?
Ah ouais, il est prêt à partir, là.
Et il s'attaque. Est-ce que. Alors, les passagers moto, si on ne veut pas faire croire qu'on est très séduit par le conducteur, il faut mettre les mains derrière?
Ouais, on peut tripoter un peu, mais il faut être gentil.
Faut être gentil. Est-ce que vous aimez qu'on s'agrippe à quoi? Vos épaules, votre poitrine, votre taille? Ou vous préférez.
Non, je suis assez sensible, moi, je préfère qu'on tienne au poignet.
On se tient à vos poignets. Est-ce que si vous avez une fiancée, est-ce que c'est un grand moment les poignées d'amour, cet endroit où quand on a mangé trop de noix de cajou, ça finit par se voir. Donc là, continuez. Vous pouvez nous parler tout en roulant à moto.
Ça va être compliqué parce que si je mets le casque.
Non, mais faisons une expérience radio un peu rare, un petit peu, un truc un peu qui restera dans les annales. Je veux que ça, une émission qui bouge, une émission en mouvement. Allez-y, envoyez les gaz. On est sur une quoi? On est sur une Kawa 250, là?
Non, ouais, là, c'est un Suzuki GS. Une Suzuki, 750 Inazuma.
Ouais, je la connais, la Suzuki 750. Ouais, qu'est-ce qu'elle consomme, cette chiotte? On y va. On envoie les... Ouais, j'ai un copain qui en avait une. Bon, bah, le mec, ensuite, après, il était...
Ouais, mais on est parti, là!
C'est parti. C'est parti. Jack Souvent est sur une Suzuki 750 qui est en vente au Bon Coin sous l'appellation... Ah ouais, c'est la Suzuki, ça. Et il va croiser trois Harley énervés avec...
Et on tourne à droite, quoi.
Et ça le fait marrer. Ça tient à rien, à la vie. Hein.
À droite,
là, on part où vous voulez.
Rire d'un rien.
Bon, on est là.
D'un cul posé sur une Suzuki. À l'arrière d'un homme qui bosse dans une grosse boîte à Gennevilliers, s'agripper à ses poignets d'amour, bien sûr. Rêver, se frotter, le micro à la bouche, le casque sur la tête, les croissants derrière les fesses. Rêver, bouger, s'arrêter au feu, repartir, être libre. Et s'il n'y allait pas, Gennevilliers, dans cette grosse boîte d'informatique, s'ils partaient tous les deux, vivre le bonheur d'être homme, d'être garçon, de sentir le printemps arriver et d'aller à Broadback Mountain, cet endroit où les cow-boys, après avoir gardé le bétail, s'enlacent fougueusement. Jack Souvent, le cow-boy... pour une belle amitié entre garçons, ce matin, dans Plus Près de Toi. Eh oui.
7h-9h, Plus Près de Toi.
7h-9h, Edouard Appert.
Ça me rappelle rien.
Alors, musique, Atmen Khelif et Tito, pour un combat, le salon de l'agriculture contre la rubrique mondaine d'Atmen Khelif.
Tout à fait.
Il y a un très beau live, ils sont en train de se préparer à côté avec notre ami Rudy, c'est François and the Atlas Mountain, en anglais, Atlas Mountain. Ça me fait froid dans le dos. Mais c'est pas ça, hein. C'est tout à l'heure. Junior, elle s'ennuie il y a deux semaines ici, Armel.
Oui, c'est ça, ils avaient fait un petit live dans le Café Nova, ouais. Junior. On écoutait Panique à l'instant.
De qualité. Tito, Atmen, Tito, c'est la fin du Salon d'agriculture, ça s'est terminé hier. Vous y êtes allé beaucoup, vous avez beaucoup d'amis, Tito, puisque je rappelle qu'en plus d'être musicien flamenco, vous êtes aussi coupeur officiel de jambon,
voilà.
du fameux noir de Bigorre. Vous allez faire même aiguiser vos couteaux à Séville.
Exactement.
Vous êtes une légende dans le monde du très beau jambon.
Eh oui, mais c'est une passion et... Et le salon, ben, c'est terminé. Ben, c'est terminé dimanche. Alors, j'ai terminé dans le salon avec les Occitans, hein, parce qu'il y avait une fanfare qui était là. C'était vachement bien. Et j'ai picolé un petit peu avec les Corses, parce qu'ils sont très sympas. Ils font du très bon jambon aussi. Et puis, on a chanté. Voilà, et ça s'est bien clôturé de cette manière.
Alors, à la fin du Salon de la Culture, il y a une énorme souffrance. Ce sont les serveuses du stand Martinique qui n'en peuvent plus. Il y a un stand Petit Ponche qui est fait par l'Office de la Martinique. Il y a cinq ravissantes martiniquaises qui sont là, en tenue traditionnelle, et elles sont emmerdées, les pauvres. Il y a de la drague à l'ancienne.
Lundi, j'ai démarré là-bas, dans ce salon, où tu parles à
Elles en entendent de la connerie.
Elles t'appellent comme ça, elles te font coucou, tu veux boire un petit verre avec nous?
Et puis, oui, il est très bien votre accent martiniquais. On voit que vous pratiquez beaucoup le vol Paris-Fort-de-France. Mais alors, elles sont au moins aussi emmerdées que les hôtesses du salon de l'auto. Ça, je crois que c'est le sommet dans le sommet d'emmerdement des femmes par des hommes.
C'est le salon de l'agriculture. Hein.
Mais c'est surtout l'alcool.
C'était joyeux cette année, il y avait beaucoup de monde.
Oui, alors il y a énormément de monde, il y en a de plus en plus. Ça devient même la cohue, ça devient infernal.
Oui, mais c'est beau, je trouve qu'il y a un mélange de population. Il y a de la grosse moustache, il y a des femmes de toutes origines, il y a des familles, des enfants.
Voilà, c'est quand même grand-père, parents, enfants.
On voit des animaux qu'on voit peu dans les rues de Paris de nos jours.
Oui, c'est vrai que croiser un bœuf de 900 kilos dans les rues de Paris.
C'est vrai que parce qu'on continue à l'école à montrer aux enfants, à leur apprendre l'alphabet avec des animaux qu'ils n'ont jamais vus en vrai, en fait.
Non. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a des poules, il y a des lamas, on voit plein de.
Il y a un manque de poissons.
Il y a
des poissons et des aquariums.
Si, il y a un aquarium. La Côte d'Ivoire a amené un aquarium avec un poisson qui s'appelle le mâchoiron. Et le mâchoiron, un poisson élevé, alors ils capturent les insectes, ils en font des petits granulés, et puis ils les nourrissent avec ça.
Oui, parce que vous savez que sinon, un enfant sur deux de moins de 6 ans, quand on te dit de dessiner un poisson, il dessine un carré, un rectangle.
Un bâtonnet de Colin, vous voulez dire?
Un bâtonnet de Colin.
C'est terrible, ça.
Un poisson avec les yeux dans le coin.
Alors, Atmen, vous étiez très chier, vous étiez très ami du capitaine Igloo, d'ailleurs. Quelqu'un que vous fréquentiez. Mais vous avez aussi d'autres fréquentations. Vous alliez de quoi vous parlez dans notre rubrique mondaine?
Alors, c'est très grave ce qui s'est passé, Edouard, après les Césars. Quand on a viré les parasites, eh bien on a fermé le Fouquet's. Voilà, ils ont déménagé tout.
J'ai pas compris.
Après les Césars, il y a le dîner des Césars. Et tout de suite après, vers 5h du matin, ils ont viré les gens, ils ont enlevé les tables, les tapisseries, les acajou blancs. Ils ont fermé le Fouquet's qui rouvrira le 9 juillet.
Bah c'est grave.
Ouais. C'est très grave. On le dit pas assez. Alors fini le bœuf cimental flambé au cognac sauce Champs-Élysées. Fini le tartare au thon rouge, au poivre servi avec sa coupette Bollinger. Fini le cake boulois muscovado. Mais voilà. Se rabattre à l'hôtel Patio Naoura Barrière à Marrakech, si on veut aller rigoler là-bas.
Oui.
Sinon, pour la petite histoire, le Fouquet's, c'est là où il y avait tous les gens du cinéma français, toute la jeunesse qui allait, Ventura, Gabin, Blier, voilà. Oui. À part quelques parasites de la nouvelle vague, comme Godard, Truffaut, Chabrol, sont allés espionner les fêtes un petit peu.
Rému, c'était le QG de Rému, que vous avez bien connu aussi, voilà. Jeunesse.
Voilà, tout ça pour terminer cette rubrique un petit peu. Voilà.
Oui.
Que les critiques vivent de nos fours et de nos petits fours.
Bon, alors, attends.
Oui, dites-moi.
Ça, c'est la chute, ça.
C'était la chute, en fait.
Ça, c'est ta rubrique un peu jeune, fraîche, marrante, sympa.
Voilà, c'est ça. Non, mais parce que c'est.
Je
loin.
Fais quoi, moi?
Bah, tu sauves le truc.
Apportez-moi les audiences.
T'essayes de sauver le truc.
Oh mon Dieu.
Non, mais
Faites quelque chose. Alors, Armel, moi, ce n'est pas de ma faute. Il y a un énorme retour de la pub. Ne m'engueulez pas.
Ben oui.
C'est pas la peine que j'en dise. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne touche pas sur la pub. J'aimerais bien.
C'est un petit peu quand même.
La moitié, simplement. Alors, tout de suite, je vais rejoindre le live, là. Je vais rejoindre François du groupe des Atlas Mountain. Avec Rudy. Et puis, pardon, toute cette pub. Mais il faut en faire quelque chose. Je crois qu'il y a de la qualité, peut-être.
Mais pourquoi vous voulez en passer autant? C'est ça la question.
Enfin.
Parce qu'il y a de l'argent.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
7h-9h.
Mais c'est beaucoup trop court.
Alors, je suis en train de vivre une expérience visuelle que je voudrais rendre d'une façon sonore. Il y a énormément de monde au Café Nova pour François de Atlas Mountain. Mais pourquoi non? Pourquoi? Ouh, il n'y a pas d'autres sons. Allez, on essaye dans les graves aussi. On y va.
Ouh.
Voilà, c'est un public assez mixte, assez jeune. Déjà, des numéros de téléphone circulent, les gens se rencontrent. François, est-ce que vous êtes conscient comme ça de provoquer ça dans votre public, cette érotisation?
J'y travaille.
Vous y travaillez?
J'y travaille, ouais.
Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes parti de Saintes dans les Charentes-Maritimes.
Ouais, beaucoup de numéros de téléphone.
Beaucoup de numéros de téléphone.
Rentrer.
Vous aimez bien rentrer chez vous? C'est comment Saintes? Je connais pas du tout.
Ah, c'est très paisible, c'est très calme. C'est une rivière qui coule doucement comme ça. Voilà, très lentement.
Et donc vous êtes au bord de la rivière?
Ouais.
Vous regardez l'eau
couler? Et pas loin de la mer.
Ouais.
Il y a de l'eau partout, il pleut.
Ça vous calme?
Ouais.
Ça vous apaise?
Oui.
Est-ce que vous connaissez les présentations de Rudy qui sont déjà légendaires? Rudy, présente-nous François and the Atlas Mountain.
Nous embrassons nos camarades à Sainte qui sont en train de nous écouter, je le sais. Il était une époque pas si lointaine où nous parlions de garçons modernes. Aujourd'hui, nous recevons François and the Atlas Mountains, des garçons sensibles. Il va bien falloir s'habituer au fait que notre époque est en train de changer une jeunesse, une vision, une manière d'exprimer son art. Poète, François-Marie l'a toujours été et le restera. Bientôt 10 piges et 4 albums que lui et ses acolytes nous bercent, nous évadent, nous font danser à coups de mots et d'images bien choisies, de musique ouverte sur le reste du monde. Sauf que comme le dit si bien François, vu l'année 2015 que nous nous sommes pris dans la tronche, l'essentiel n'est plus à l'échappatoire mais à l'action. Il faut s'imposer, imposer nos valeurs. Si on ne le fait pas, d'autres le feront avec d'autres valeurs moins humanistes. Alors ce quatrième album, symboliquement intitulé « Solide Mirage » est planté là, face à la mer. Ça pourrait être celle de la Méditerranée, drame en bleu à ciel ouvert. Les yeux de François-Marie ne se sont pas fermés, mais sont bel et bien plus ouverts que jamais, et tant pis si la poésie est mise de côté. Aujourd'hui, les propos sont plus durs, plus bruts, tout simplement plus ancrés dans le réel, une question de survie. En témoigne l'ouverture de l'album intitulé « Le Grand Dérèglement », dont le splendide clip tourné en plein milieu du palais de justice européen invite le danseur palestinien Mohamed Okal à partager une danse avec François. Messieurs les plus beaux, vous connaissez bien cette verrière. Bienvenue à vous. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bisou à Sainte et au reste du monde. C'est à vous. Ils vont nous interpréter l'ouverture de cet album.
Déjà savoir si ça va. Est-ce que ça vous a convenu la présentation par Rudy?
Parfaite.
Parfait. Alors je demande à tout le public présent de se lever une seconde et une fois d'applaudir Rudy, s'il vous plaît. Attention, ça va lancer. C'est votre moment et ça permet de lancer. Merci.
Je peux en faire une autre?
Non, c'est bon, merci. François,
le grand dérèglement, François Ndiata.
Ici, en direct.
1, 2, 3, 4.
Merci. C'était François Ndiata Fontaine. C'est fini. C'était un plaisir de vous retrouver. À demain, bien sûr. Merci à tous. Et voici les 30 glorieuses qui s'avancent.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Ouais.